Je vous rafraîchis la mémoire sur ce qu'on a fait à la dernière séance. Donc à propos du Phèdre, tout ce qu'on a trouvé dans le Phèdre comme indication sur la manière dont l'âme parvient à saisir les idées. Je vous rappelle qu'il y avait plusieurs conditions qui devaient nécessairement être conjointes. Une condition, c'était élévation de l'âme quand elle n'était pas encore incarnée et par laquelle, image par laquelle Platon justifie au fond qu'on ait des dispositions innées. Donc il faut des dispositions innées. Il faut cette passion de la connaissance qu'il exprime sous la forme de Eros. Eros, le désir, hein, désir de connaissance, amour de la connaissance. Il faut cette inspiration qui est créée par la relation à deux. Donc par là, c'est l'inspiration amoureuse créée par le fait qu'on crée inspiré par quelqu'un et pour lui donner quelque chose. Donc cette relation n'est pas une simple collaboration. Donc il faut de l'amour aussi. Et puis, bien entendu, il faut un effort intellectuel. On ne va pas non plus créer des belles choses sans une méthode, sans, en tout cas si ce qu'on cherche, c'est les idées. Il faudra aussi toute une méthode. Et donc, Socrate détaille un petit peu cette méthode dans la suite du Phèdre, en disant qu'elle consiste essentiellement en deux étapes principales. La première étape donc, de ce travail intellectuel, qui est de la dialectique, bien sûr, première étape, c'est essayer de rassembler en une seule notion des observations éparses, des cas particuliers, les rassembler dans l'unité d'une notion. Et ça, alors bien sûr, ça doit nous permettre d'une part d'atteindre précisément ce qu'on appelle l'idée. Hein. L'idée, c'est précisément ce rassemblement de ce qui est commun à une série de cas particuliers, mais aussi, ça nous permet de nous mettre d'accord sur ce dont on parle. Puisque, en fait, beaucoup de dialogues partent sur des malentendus, tout simplement parce qu'on ne s'est pas d'abord mis d'accord sur la définition de ce dont on parlait. Et là, ça a été un peu le cas avec l'amour à propos au début du dialogue Phèdre. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de rediviser cet ensemble en des sous-ensembles selon certaines différences qu'ont des espèces dans ce genre, et trouver aussi les propriétés qui appartiennent à ces différents sous-ensembles. Et ces propriétés, on va les trouver selon une méthode assez systématique qui consiste à chaque fois à se demander est-ce que la chose dont on parle est simple ou complexe ? Est-ce que qu'est-ce qu'elle a comme type de relation avec les autres ? Qu'est-ce qu'elle a comme type d'état ? Hein, est-ce qu'elle peut revêtir plusieurs états, plusieurs formes ? Et donc, on passe par toute une série de questions, au fond, systématiques et obligatoires, qu'on appellera plus tard les topoi, les lieux communs, en fait, de l'enquête dialectique ou rhétorique. Donc, voilà un début d'instruction par rapport à l'enquête, mais c'est encore très peu. C'est le début, c'est les premières mises en place par Platon de sa méthode dialectique. Et progressivement, on va la voir de plus en plus se préciser. Donc, en chemin, on a répondu aux questions qui avaient été posées au départ, à savoir, est-ce qu'il vaut mieux accorder ses faveurs à un homme qui vous aime ou qui ne vous aime pas ? Mais bien sûr, c'est qu'il vous aime, puisque du coup, son inspiration va réaliser des grandes choses. Et la deuxième question qui se posait, c'était par rapport à la puissance de la rhétorique, puisque vous vous souvenez que Phèdre arrivait avec un discours écrit par un orateur, et il demandait à Socrate ce qu'il pensait de ce discours, c'est-à-dire aussi de la qualité rhétorique de ce discours. Et ce que Socrate ajoute alors pour la rhétorique, c'est que si elle veut être bonne et persuasive, il faut aussi qu'elle passe par ces deux étapes de définition de son objet globalement, donc arriver à donner une définition commune qui convienne à toutes les sortes, à tous les cas de son objet, et ensuite redivision et propriété particulière. Et au fond, son objet, c'est quoi la rhétorique ? C'est l'âme, précisément. Parce que la rhétorique, c'est l'âme qu'elle doit connaître pour savoir comment persuader les âmes du message qu'elle essaye de faire passer. Et ensuite, elle va rediviser en délimitant une série de types de caractères différents sur lesquels des argumentations différentes vont fonctionner. Pour certains, il faudra tel type de discours, pour d'autres, il faudra un autre type de discours, les uns avec beaucoup d'ornements, les autres au contraire très secs, les uns très démonstratifs, etc. Donc voilà comment on clôt aussi l'ensemble des questions qui avaient été ouvertes depuis le début. Et le final du Phèdre, C'est aussi une discussion, une sorte d'appendice assez connu. C'est la comparaison entre l'écriture et l'enseignement oral. Qu'est-ce qui vaut mieux comme enseignement, un enseignement écrit ou oral? Et c'est suscité par le fait que l'orateur Lysias avait transmis un discours par écrit à Phèdre. Et Phèdre, disons, s'en émerveillait parce qu'il pouvait le relire aussi souvent qu'il le voulait, y recourir s'il ne se souvenait pas de tout. Et donc il disait, est-ce que tu ne trouves pas, Socrate, que tout de même l'écrit est bien supérieur à l'oral? Et on connaît bien cette critique par Platon de l'écrit qui est qu'il... empêche le développement de la mémoire. Parce qu'évidemment, si on sait qu'on peut se reposer sur l'écrit, on ne va pas faire l'effort de mémoriser. Alors que si on sait que on doit retenir ce qu'on entend parce qu'il n'y aura pas d'écrit, évidemment, on va faire plus d'efforts de mémoire. Ça, c'est bien connu. Mais Platon ne s'en tient pas à ça. Au-delà de cette question de la mémoire, parce qu'en fin de compte, la mémoire ne suffit pas. Hein. Pour Platon, un bon enseignement n'est certainement pas ce qu'on apprend par cœur. Je veux dire, un enseignement oral qu'il faudrait apprendre par cœur, ça n'a aucun sens pour lui. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'il ajoute, c'est qu'un bon enseignement, c'est un enseignement où l'apprenant ne reçoit pas simplement des connaissances comme s'il était une page blanche sur laquelle l'enseignement vient s'inscrire, mais en fait, acquiert ses connaissances de manière à en être complètement transformé. C'est-à-dire qu'il se les approprie, il les fait siennes, il les transforme lui-même aussi, et ensuite il est capable de les présenter à sa manière. Un enseignement est réussi quand l'apprenant est capable de présenter d'une autre manière que ce qu'il a appris la même chose. Ça prouve à quel point il a vraiment compris. Et ça doit venir nécessairement par le dialogue. C'est-à-dire que, comme au fond, peut-être nous essayons de le faire, c'est-à-dire que quand j'ai parlé, vous pouvez me demander « est-ce que tu as bien voulu dire ça ?» ou « est-ce que j'ai bien compris que c'était ça ?» ou « est-ce que je pourrais te suggérer qu'il y a telle ou telle chose à laquelle ça me fait penser ?» ou éventuellement faire des objections, dire je ne pense pas, je ne suis pas d'accord avec telle ou telle chose, est-ce que tu peux justifier pourquoi tu le dis? Et donc un vrai enseignement doit nécessairement passer par ça, parce que c'est seulement quand on a pu discuter ce qui est transmis qu'on le retient vraiment. Et non seulement on le retient, mais on l'a parfaitement compris et intégré. Tout enseignement devrait être comme ça, d'après Platon. Évidemment, c'est une excellente observation. Et c'est alors aussi que Platon rappelle que il y a de meilleures terres que d'autres, de meilleurs terrains que d'autres pour semer sa petite graine. Donc je vous lis ce bref extrait. Prenant l'âme qui est faite pour ça, on y plante et on y sème. Hein, donc enseigner, c'est planter et semer dans un bon terrain. Avec la science, des discours capables de se défendre eux-mêmes aussi bien que celui qui les a plantés. Le discours doit pouvoir se défendre lui-même, alors que l'écrit ne le fait pas. Vous avez un discours écrit. Si vous n'êtes pas sûr de ce que voulait dire l'auteur, ou si vous voulez lui faire des objections, vous ne pouvez pas. Et le discours ne pourra pas non plus se défendre. Si on essaye de le réfuter, il ne pourra pas répondre à la réfutation. Donc, il vaut toujours mieux, évidemment, être face à face. Donc, des discours qui capables de se défendre eux-mêmes et qui ne seront pas sans fruits, mais porteront une graine par laquelle d'autres discours, poussant dans d'autres caractères, seront capables de produire à leur tour cette immortalité et rendront leur possesseur heureux autant qu'il est possible pour un être humain. Donc l'important aussi, c'est que celui qui a parfaitement intégré, qui s'est réapproprié un certain enseignement, sera capable à son tour, évidemment, de le propager, de le répéter ailleurs, et justement parce qu'il ne fera pas que répéter, parce que il sera tellement bien imprégné de cette connaissance qu'il pourra la transmettre. Et on pourrait penser que ça convient plus à certaines matières qu'à d'autres, mais je pense que si vous essayez d'examiner n'importe quelle discipline de la connaissance, cette méthode est la meilleure. Même si on prend une discipline qui est réputée, disons, reposer beaucoup sur le par cœur, comme l'histoire par exemple, mais... comprendre l'histoire, c'est beaucoup plus important que retenir simplement des faits, justement, parce que les faits, il n'y a pas de fait brut en histoire. Le fait nécessite toujours une interprétation, nécessite toujours une compréhension des événements. Comment se fait-il que ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça prenne cette voie et pas telle autre qui était possible aussi, a priori? Et surtout, si on veut tirer un enseignement de cette histoire, c'est-à-dire pas simplement, bon, avoir une forme d'érudition et rien de plus, si on veut que ça serve au présent, Hein, comme on dit qu'effectivement, si on veut pas que l'histoire se répète, il faut la connaître. Donc si on veut intégrer ça comme un enseignement, bah, évidemment qu'on doit comprendre comment ça s'est fait et qu'est-ce qui aurait pu avoir lieu d'autre si effectivement il n'y avait pas eu tel événement ou tel choix par telle personne, etc. Donc en fait, qu'on prenne n'importe quelle matière, je pense qu'on pourra refaire la même expérience et que toujours il y a quelque chose à comprendre, à intégrer, et à partir de ce moment-là, mais dès qu'on a compris, on peut le reformuler. Hein. Il n'y a pas besoin d'un apprentissage de perroquet. Donc voilà comment se termine ce dialogue, le Phèdre. Et avec lui, on passe maintenant à la dernière période de l'œuvre de Platon, la période dite de vieillesse. Mais vous verrez que c'est un beau vieillard, hein, parce qu'il a encore de belles écritures devant lui. Et le premier qu'on étudie en général dans cette période, c'est le Théétète. Le Théétète, c'est un dialogue qui est vraiment consacré à la question de la science. Qu'est-ce que la science ? C'est la question posée par ce dialogue. Alors, Théétète, un cauchemar d'orthographe. Comme ça. Donc, c'est un dialogue entre Socrate et le jeune homme qui s'appelle Théétète, qui est un élève d'un géomètre, d'un grand géomètre connu, qui s'appelle Théodore, et qui ne participera pas beaucoup au dialogue. Chaque fois que Socrate lui demande s'il veut prendre sa part donner une contribution, chaque fois il dit « Non, non, interroge plutôt les jeunes, c'est beaucoup mieux, Théétète fera ça beaucoup mieux que moi. » Et donc, en fait, c'est surtout Théétète qui fait vaillamment la réponse à Socrate. Donc, puisque c'est la question que Socrate pose, hein, de savoir ce qu'est la science, puisqu'il a affaire à des géomètres, il en profite pour leur demander ça. Et eux, bon, ils sont juste capables de lui dire ce que sont les mathématiques, mais quant à dire ce qu'est la science en général, c'est-à-dire justement cette communauté, hein, qui relie toutes les sciences entre elles, donc qu'est-ce que c'est la science en elle-même, quelle que soit la discipline qui puisse s'adapter à toutes les disciplines qu'on évoque, aucun des deux ne peut le faire, ne peut la définir. Et Socrate dit que lui non plus, en fait, il n'en sait rien, mais que c'est alors qu'il introduit sa fameuse méthode de maïeutique, hein, mais que lui, il ne sait pas, mais il est capable de faire accoucher ceux qui sont gros de quelque chose, ceux qui sont féconds et qui ont quelque chose en eux, mais qu'ils n'arrivent pas à produire tout seuls. Donc il va interroger Théétète, dont il sent qu'il est particulièrement doué et qu'il va bien en sortir quelque chose de bon. Bon, Théétète alors accepte de se lancer, de faire une première proposition. Et sa première proposition, c'est que, au fond, quand on connaît quelque chose, on le sent aussi, on le perçoit. Et donc, on pourrait dire que connaître, c'est sentir. Donc la science, ça serait la sensation. Première définition, évidemment, dont on comprend très vite qu'elle est insuffisante, mais elle va être longuement mise à l'épreuve parce que Socrate va immédiatement la rattacher à ce que disait Protagoras, à tort ou à raison. Bien entendu, il recrée un personnage là qui n'est sans doute pas le Protagoras historique. Mais donc, Protagoras, dit Socrate, disait ça aussi dans sa fameuse formule « L'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont du fait qu'elles sont, de celles qui ne sont pas, du fait qu'elles ne sont pas. » On a vu ça, hein, au cycle précédent. Et qu'est-ce que ça voulait dire ? On avait vu qu'on pouvait interpréter de plusieurs façons cette phrase un peu énigmatique, mais principalement, on avait le choix entre une interprétation individuelle de ce jugement, hein, du fait qu'un individu pourrait être le critère de ce qui est et de ce qui n'est pas, donc ça pourrait être différent pour chacun de nous, ou bien l'autre possibilité, c'est que c'est l'espèce, c'est en tant qu'espèce humaine que nous sommes des mesures pour les choses qui sont, parce que nous avons certaines capacités, certaines facultés d'appréhension des choses, et nécessairement nous devons les appréhender par là, nous ne pouvons pas faire autrement que les filtrer par nos moyens de connaissance, aussi bien sensibilité que raisonnement. Donc ça, en fait, ce type de relativisme subjectif, hein, dans ce relativisme qui fait que le sujet institue quelque chose de l'objet et ne le reçoit pas brut, Bien entendu, c'est ce qui a été thématisé par Kant. C'est vraiment le phénoménisme de Kant. C'est-à-dire que le phénomène, c'est ce que nous pouvons appréhender, mais tous les êtres humains de la même façon. Ce que nous pouvons appréhender étant donné nos moyens de connaissance, mais nous n'atteignons pas de cette manière ce que la chose est en elle-même, hein, en elle-même, par elle-même ou en soi. Ça, nous ne pouvons pas le savoir, puisque par définition, tout ce que nous savons, c'est ce qu'elle est pour nous. Pour nous et non en soi. Donc, au fond, cette phrase de Protagoras pourrait bien déjà vouloir dire ça. Hein, c'est tout à fait possible et même probable. Mais Socrate ne va pas la prendre dans ce sens, général à l'espèce, il va la prendre dans le sens du relativisme individuel. Parce qu'il ajoute aussitôt, quand Protagoras dit ça, ce qu'il veut dire, c'est que telle une chose m'apparaît, telle elle est pour moi. Et telle une chose t'apparaît à toi, telle elle est pour toi. Donc, ce qui apparaît, c'est ce qu'est la chose pour chacun. Donc, c'est différent pour chacun parce qu'on sait que les choses paraissent différentes à différentes personnes en fonction de l'état de leurs organes sensoriels, le fait qu'ils soient près ou loin de la chose, le fait qu'ils sentent le chaud et le froid en fonction de la chaleur de leur corps à ce moment-là, etc. Bon, donc, on sait bien qu'il y a une diversité, évidemment, de sensations. Une variation des sensations individuelles. Mais il y a plus que ça dans cette manière d'interpréter les choses. Ce n'est pas seulement que l'apparence est propre à chacun, c'est aussi que l'être des choses se réduit à leur apparence. C'est-à-dire que ce qui apparaît, c'est ce qui est. Donc telle une chose t'apparaît, telle elle est pour toi. L'être se réduit à l'apparence, c'est-à-dire que ce qu'est une chose, c'est uniquement ce qui apparaît. Autrement dit, on réduit la chose à être un phénomène. Là où Kant disait, bon, derrière les phénomènes, il y a évidemment quelque chose en soi qui nous échappe, là, selon l'interprétation par Socrate de Protagoras, il voudrait dire, il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a que le phénomène, la chose n'est que phénomène, ce n'est que ce qu'elle apparaît, qui existe, et il n'existe rien d'autre que ce qui nous apparaît. Alors comment ça se passe? Ça veut dire qu'il n'y a pas un objet qui soit quelque chose en lui-même, hein, qui soit quelque chose par lui-même. Par exemple, cette table n'est pas une table par elle-même, elle est juste ce qui m'apparaît, c'est tout. En dehors de ça, il n'y a rien. Mais alors comment se fait cette apparence si elle ne vient de rien? Eh bien, en fait, ce qu'il y a, c'est une sorte de chaos général, une sorte de chaos dans lequel... Il n'y a pas de détermination fixe, mais il y a des mouvements continuels. C'est comme si les choses étaient constamment en train de bouger, ne formaient jamais rien de stable. Et dans cette mouvance perpétuelle, il y a certaines choses qui arrivent à nos organes sensoriels et qui correspondent au type d'appréhension que chaque organe est capable de faire. Donc, ça nous vient sous forme adaptée à nos yeux. Et au moment où une mouvance ou un flux de ce type effleure nos yeux, à ce moment-là, il y a une production de couleurs. Hein, donc, à ce moment-là, on voit des couleurs parce qu'à ce moment-là, l'œil devient voyant et ce flux devient coloré. Mais il faut supposer qu'il ne l'était pas avant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'objet était coloré que à un certain moment, évidemment, il y a un passage de cette couleur à nous. Ce n'est pas ça. C'est que c'est seulement vraiment au moment de la rencontre entre une sorte de flux constamment changeant et notre organe sensoriel, c'est au moment de cette rencontre que se produit la couleur ou le son, hein, pour l'ouïe, ou le toucher tactile, enfin tout ça. C'est valable pour les cinq sens. Donc c'est une thèse selon laquelle il n'y a pas d'objet stable en dehors de nous. Aucun objet stable, c'est toutes les déterminations, elles sont données justement au moment de la sensation. Alors attention, ce relativisme ne signifie pas que la couleur est une convention, au sens où le disait Démocrite par exemple, et au sens où bien entendu on le dirait maintenant, c'est-à-dire qu'en réalité nous savons que la couleur est une longueur d'onde, et que évidemment notre organe sensoriel nous restitue sous forme de couleur ce qui est en fait une certaine longueur d'onde. C'est pas simplement ça que ça veut dire, c'est bien plus radical que ça. Parce que si on dit ça, on veut dire qu'au moins cette longueur d'onde est fixe. Elle existe dans les objets. Elle est vraiment émise par des objets, cette longueur d'onde. Elle est vraiment émise, indépendamment de nous qui la sentons ou pas. Que nous la sentions ou pas, elle est là. Non, Protagoras ne dit pas ça. Enfin, le Protagoras de Socrate ne dit pas ça. Il dit, Ce qui nous arrive n'est pas une certaine longueur d'onde, ça n'a aucune détermination, aucune qualification, aucune identité personnelle propre. C'est au moment où quelque chose d'indéfini arrive à nos oreilles ou à nos yeux que tout d'un coup ça devient une couleur. Tout d'un coup, par cette interaction, par cette interaction. Donc c'est parce que dans ce mouvement, en fait, est capable de déclencher quelque chose quand il est en contact avec ce qui est quelque chose en nous aussi capable de déclencher quelque chose. Bon, ça c'est le relativisme vraiment le plus extrême qu'on puisse concevoir. Mais Théétète ne comprend pas comme ça la phrase de Protagoras. Lui, il préférerait la prendre au sens justement du relativisme de l'espèce, c'est-à-dire au sens où les sensations sont les mêmes pour tous les êtres humains. Mais Socrate le mène bien au-delà de ce qu'il aurait voulu. Et lui fait reconnaître donc qu'en dehors de ce moment de sensation, de contact, il n'y a ni senti ni sentant, et rien d'autre qui porte le sensible ou qui porte la capacité de sentir. Ça veut dire aussi que du côté du sujet non plus, il n'y a pas de sentant en dehors de la sensation. Donc on ne peut pas dire que pendant qu'on n'entend rien, notre oui existe néanmoins comme capacité de sentir, non ? Elle n'est rien. Pendant qu'on n'entend rien, elle n'est rien. C'est seulement au moment où un son lui parvient, ou plus exactement qu'un son se crée par sa rencontre, c'est seulement à ce moment-là qu'elle devient sentante, elle ne l'est pas indépendamment de ça. Alors, évidemment, cette théorie, il y a de l'intérêt là-dedans. On sent bien qu'il y a un intérêt à préciser à quel point la rencontre et l'adéquation entre un certain objet extérieur et notre dispositif réceptif, hein, c'est-à-dire à quel point cette adéquation est nécessaire. Donc ça, c'est important d'y réfléchir. Mais ce sera corrigé, en fait, cette théorie, elle va être reprise, mais corrigée peu de temps après par Aristote, qui introduira, pour justement la rendre probable, qui introduira la différence entre la puissance et l'acte. En fait, hein, on peut dire que nos organes sensoriels sont sentants en puissance tant qu'ils ne sont pas en train de sentir en acte. Donc, et au moment de l'acte, évidemment, ils sont sentants en acte. Et donc, de cette manière-là, pour les objets aussi, il n'y a pas de raison de dire que au moment où la table n'est pas sentie, n'est vue par personne, ou un son qui retentit n'est entendu par personne, eh bien, à ce moment-là, ça n'empêche pas qu'il est sensible en puissance. C'est-à-dire qu'il pourrait être senti et il est bien quelque chose par lui-même. Hein, ça veut dire qu'il a bien cette détermination par lui-même, mais personne n'est là pour le sentir, c'est tout. Donc voilà la correction qui sera faite après. Une autre conséquence de cette théorie, c'est qu'il faut revoir complètement notre vocabulaire, parce qu'on ne peut plus non plus utiliser aucun terme qui donne une identité aux choses, qui dise « ceci est rouge », par exemple, hein, ou « ceci est un attribut de cela », puisqu'il n'y a rien qui soit justement attribut d'une manière durable de quoi que ce soit, et il n'y a rien qui possède les qualifications par soi-même. Donc on ne peut plus dire « ceci est », hein, je vais vous lire un petit extrait qui dit ça, « il ne faut accepter de dire ni quelque chose », donc chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est abusif parce que cette chose n'existe pas en tant que telle, ni de quelque chose, c'est-à-dire on ne peut pas non plus dire que ceci appartient à, hein, c'est que, par exemple la couleur de tel corps, non, c'est pas vrai, c'est pas la couleur de tel corps, il n'y a pas de corps qui supporte les couleurs, ni de moi, ni ceci, ni cela, on ne peut même pas dire ceci, cela, parce que c'est déjà fixer quelque chose. Hein. Dire ceci, ça veut dire que je reconnais, j'identifie, je différencie de tout le reste. Donc, je stabilise, en fait, quelque chose qui est réputé être constamment mouvant et n'ayant aucune identité propre. Donc, on ne peut pas dire ceci ni cela. Ni aucun autre mot qui indiquerait un arrêt. Mais il faut, suivant la nature, donc eux disent que c'est la nature qui est comme ça, parler de ce qui devient, de ce qui est produit, de ce qui disparaît et de ce qui est changé. Donc on ne peut utiliser que des verbes de changement, hein, que des verbes de mouvance, de devenir, et ce sont les seuls verbes qui correspondent à l'état de la nature, à ce chaos naturel. Parce que si l'on fixe quelque chose par la parole, on est facile à réfuter. Hein, donc d'après ces gens-là, évidemment, ils vont tout de suite nous réfuter. Dès qu'on dit le verbe « être », ils vont dire « il n'y a rien qui est ». Il n'y a rien qui est, tout devient. Et il faut parler ainsi, non seulement des parties, mais aussi des ensembles. Donc les parties, ce serait plutôt les attributs des choses, hein, comme on a dit, les couleurs ou les caractéristiques tactiles d'une chose. Donc c'est pas seulement pour ces parties, mais aussi pour les ensembles, donc la table avec toutes ces déterminations attributives, que ces ensembles que par rassemblement, justement, on appelle homme ou pierre ou animal, que ce soit en tant que particulier ou en tant qu'espèce, hein, en tant qu'individu ou en tant qu'espèce. Donc rien de... aussi bien pour ces ensembles que pour chaque attribut d'un ensemble, on ne peut jamais rien dire avec le verbe être et qui soit déterminant, hein, qui soit un déterminant, une qualité de cette chose. Alors évidemment, une théorie aussi extrême, Socrate va bien sûr entreprendre de la réfuter. Et comment est-ce qu'il va la réfuter ? Il va d'abord s'exprimer sous une forme de boutade adressée à Protagoras. Il va lui dire, mais pourquoi est-ce que Protagoras a dit « l'homme est la mesure de toute chose » et pas « le singe ou le cochon » ? Parce que ce serait aussi valable, évidemment. Le singe et le cochon, ben, ils ont le même type d'organes, hein, le même type de rencontre avec des flux qui leur arrivent. Et donc, eux aussi, alors, ils produisent des sensations. Et si, puisque la sensation a été définie comme étant la science, alors eux aussi, ils sont producteurs de science. Donc, pourquoi ne pas dire le cochon est la mesure de toute chose, hein, il fait aussi bien que nous. Si, évidemment, on conçoit la science comme ça. Alors, ensuite... un peu plus sérieusement, il dit « Mais pourquoi alors est-ce que Protagoras se prétendait plus savant que les autres hommes ? Pourquoi est-ce qu'il prétendait enseigner aux autres, mettre à l'épreuve les opinions des autres et faire triompher sa propre opinion ? Puisque si on est dans une telle théorie où il n'y a de sensation que par rencontre, comme ça complètement fortuite, alors évidemment toutes les sensations se valent. Moi, j'ai une sensation, les autres en ont d'autres. Mais il n'y a aucune comparaison possible entre ces sensations. Il n'y en a pas une qui est plus vraie qu'une autre. Donc, si la sensation est notre seule connaissance, il n'y aura jamais une connaissance plus vraie qu'une autre. Alors, pourquoi est-ce que Protagoras dit « il y a des opinions plus vraies que d'autres » ? Donc, ça, c'est la deuxième objection de Socrate. Et la troisième, elle a trait à la mémoire. Il dit « bon, Protagoras reconnaît qu'il existe de la mémoire. Or, la mémoire n'est pas une sensation. » Quand on a un souvenir, ce n'est pas une sensation, le souvenir. Donc, la mémoire n'est pas une connaissance, puisque on a dit que la sensation était connaissance. Donc, on ne connaît rien par la mémoire. Il n'existerait que la sensation. On devrait refuser, en fait, toutes les autres activités cognitives, hein, toutes les autres activités de l'esprit, en ne gardant que la sensation. Donc, on voit bien, effectivement, tout ce que cette théorie avait d'excessif et d'intenable. Mais aussitôt, Socrate ajoute, mais Protagoras, il ne va pas se laisser démonter par les objections qu'on lui adresse. Il est tout à fait capable de répondre à ces objections. Et voilà ce qu'il pourrait répondre, parce qu'évidemment, Protagoras est déjà mort à cette époque-là. Et voilà ce qu'il pourrait répondre. Alors, en premier lieu, il va nous répondre, ça ne suffit pas du tout pour réfuter une théorie, de montrer qu'elle implique des contradictions. Si on veut vraiment la réfuter, il faut démontrer l'opposé. Il faut démontrer que c'est l'opposé qui est vrai. C'est-à-dire, il faut démontrer qu'il peut y avoir une sensation identique pour plusieurs hommes, hein, donc, pour poser la thèse que le relativisme n'est pas totalement individuel, hein, il peut y avoir une sensation identique pour plusieurs hommes, et il faut montrer aussi que, donc, ce qui apparaît n'existe pas seulement en tant qu'il apparaît, mais que c'est aussi autre chose que ce qui apparaît, hein, autre chose que le pur phénomène. Donc il faudrait démontrer ça. Il ne suffit pas de dire que l'opinion contraire implique des contradictions. Alors Protagoras répondrait aussi que lui, s'il s'estime plus savant que les autres, ce n'est pas parce qu'il pense que son opinion est plus vraie, ou parce qu'il pense qu'il y a des opinions vraies et d'autres fausses. C'est parce qu'il pense que son opinion est meilleure, et que le savant est celui qui est capable de faire changer l'opinion des autres. Alors, on reconnaît bien le sophiste, hein, l'orateur. Et en particulier, il dira, c'est ce qu'on fait dans les assemblées de la cité. Tout l'intérêt, c'est évidemment de faire changer l'opinion des autres en les persuadant qu'on a une opinion meilleure. Et en quoi est-ce qu'elle est meilleure ? C'est en ce sens qu'elle est plus utile ou plus bénéfique pour la cité. Hein, on a déjà vu ça. C'est ce fameux pragmatisme des sophistes ou des orateurs de la démocratie, ce qui compte, c'est l'utilité. Et donc, en fait, quand on doit juger d'une affaire, d'une décision à prendre par la cité, qu'on doit juger de savoir si elle est juste ou belle ou injuste et laide, en fait, le critère qu'on va utiliser, c'est est-ce que, en fait, elle est utile et bénéfique ou pas. Donc, on n'a pas besoin d'introduire la vérité là-dedans, dit Protagoras. Et sa troisième réponse, mais qui est un peu une suite de celle-là, c'est qu'il dirait qu'il faut distinguer entre le discours éristique, donc en fait un discours qui vise essentiellement à l'emporter dans une joute, hein, dans une joute oratoire, ce que effectivement les sophistes pratiquaient, et un autre type de discours qu'ils pratiquent aussi, qui est le dialogue visant à faire prendre conscience à l'interlocuteur de son ignorance et du fait qu'il a une opinion trop faible qui est réfutable, et donc lui créer en lui une aversion pour sa propre ignorance et de cette manière donc purifier son âme des mauvais savoirs, des faux savoirs. Alors évidemment, cette définition, on a tous reconnu l'activité de Socrate, hein, dans cette définition. C'est aussi l'hélénkos socratique qui visait à délivrer l'âme de ses faux savoirs. Et donc Protagoras se défendrait en disant moi je suis aussi plus savant que les autres parce que je suis capable de faire ça, hein, de purifier les âmes de leurs faux savoirs. Et donc de les ouvrir au moins à la recherche d'un meilleur savoir. Et c'est très intéressant parce que Socrate ne va pas répondre ici à cette objection-là de Protagoras, mais il y répondra dans le dialogue qui suit, celui-ci, le sophiste, qui commence justement par cette définition où on confond complètement le sophiste et le philosophe. Et donc où c'est un enjeu considérable pour Platon de faire la différence entre les deux. Donc cette question-là, elle est repoussée au dialogue suivant. Enfin, implicitement, tout simplement, elle n'est pas traitée. Ce à quoi Socrate répond plus longuement, c'est la première défense de Protagoras, celle qui contient le plus, évidemment, d'enjeux ontologiques et épistémologiques, donc celle qui contient le plus de, enfin, celle qui contient la thèse concernant, hein, l'être des choses et la manière de les connaître. Et donc, il va essayer de démontrer qu'effectivement, il peut y avoir une sensation identique pour tous les hommes et que l'apparaître n'existe pas seulement en tant qu'il apparaît. Alors comment il va démontrer ça? Il commence par dire que, en fait, tout le monde sera d'accord sur le jugement que dans certains domaines, il y a des gens dont l'opinion est meilleure que d'autres. Il prend des domaines techniques, un peu techniques, comme la médecine par exemple. Pour connaître l'évolution d'une maladie, il est évident que le médecin sera plus à même de le faire, sera plus capable de le faire, il y aura une opinion meilleure que le profane. Même chose pour piloter un navire, et puis il donne quelques exemples. Il dit bien entendu, c'est pas pareil pour le chaud et le froid. Si l'un dit « moi j'ai froid », l'autre dit « moi j'ai chaud », peut-être que là, effectivement, on ne pourra pas départager l'opinion, dire laquelle est la meilleure. Mais sur des questions de spécialité qui demandent une compétence, tout le monde reconnaîtra celui qui est plus compétent. Donc, si tout le monde a cette opinion, si tout le monde partage cette opinion, on a répondu, et que l'opinion n'est pas autre chose que la sensation, hein, on a répondu au défi de Protagoras, on a effectivement montré qu'une opinion, une sensation pouvait être partagée par tout le monde. Donc on a répondu à son défi. Cependant, on a une objection possible, c'est que il serait possible aussi de dire que, en fait, une opinion ne peut pas être plus vraie et une autre plus fausse à cause de l'argument du rêve et de la folie. Alors, l'argument du rêve et de la folie, on le retrouvera chez Descartes, évidemment, pour dire la même chose, c'est-à-dire pour dire les sens nous trompent, les sensations nous trompent. Et ici aussi, c'est dans le même cadre, c'est pour insister sur le fait que aucune sensation ne peut être jugée meilleure qu'une autre, puisque en rêve, on est tout aussi convaincu d'avoir des sensations, et pourtant on ne les a pas. Et dans un accès de folie, ou dans la maladie, dans une maladie grave, on peut aussi être tout aussi convaincu d'avoir des sensations qu'on n'a pas en vérité. Donc qui va départager le fait qu'on les a vraiment, ces sensations, ou qu'elles correspondent à des objets réels ou pas? Alors, bien entendu, on sait bien que quand on se réveille, on pourra juger rétrospectivement qu'on a rêvé. ou si on sort d'une crise de délire, on pourra juger rétrospectivement qu'on a eu de fausses sensations. Mais c'est seulement après coup. Au moment où on est dans la sensation, on est incapable de départager si elle était, si elle nous mettait en rapport avec un objet réel ou pas, si c'était une hallucination ou pas. Donc on n'en est pas encore sorti, hein. on n'est pas sorti de l'objection de Protagoras. Et Théodore renchérit là-dessus, alors il intervient pour une fois dans le dialogue en renchérissant et en disant « Il y a beaucoup d'héraclitéens, hein, de gens qui se disent disciples d'Héraclite, qui professent effectivement que tout est mouvement et que même une seule et même personne n'a jamais de sensations identiques. Même avec lui-même, il n'a pas de sensation identique parce que comme il change à chaque instant, la rencontre qui a lieu entre lui, entre ses organes et ce qui arrive de l'extérieur est changée aussi, est différente aussi. Donc en fait, une même personne n'a jamais deux fois la même opinion. Donc quant à dire qu'on peut en avoir à plusieurs, c'est encore plus impossible. Donc on voit que l'objection est revenue. L'objection est revenue. Alors Socrate va faire au fond un peu ce que les phénoménologues du XXe siècle ont aussi fait, c'est revenir à la bonne vieille expérience personnelle. Qu'est-ce qui se passe quand je sens? Qu'est-ce qui m'arrive à moi quand je sens? Qu'est-ce que je peux dire de certain? Quelle certitude est-ce que je peux avoir parce que c'est mon expérience et que je n'y ajoute aucune interprétation, je dis juste ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive quand je sens? Et c'est alors qu'il dit cet élément vraiment important. En fait, quand je sens que je sens. C'est-à-dire, il n'existe pas en grec de mot pour dire « j'ai conscience ». C'est un mot qui n'existe pas encore. Ils vont devoir l'inventer. En fait, on peut étudier progressivement l'invention de ce nouveau mot. Mais donc, ils sont obligés de passer par le redoublement du verbe « sentir », hein. On sent qu'on sent. Mais on ne sent pas qu'on sent, parce que forcément, ça ne nous échappe pas qu'on sent. On se rend compte qu'on a une sensation. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'on a une sensation par les mêmes organes que ceux qui nous donnent cette sensation? C'est-à-dire, est-ce que c'est par les yeux qu'on se rend compte qu'on voit, par l'ouïe qu'on se rend compte qu'on entend? Et non, c'est pas par ça, parce qu'il est possible de se rendre compte de deux sensations en même temps. Il est possible de recevoir deux sensations simultanément et de les distinguer, de les comparer entre elles et de dire qu'il y en a une qui est du type de la vue et une qui est du type de l'ouïe en même temps. Donc, cette synthèse, cette convergence de plusieurs sensations ne pourrait pas être effectuée par un organe particulier puisque l'organe n'a affaire qu'aux sensations de son type. Donc forcément, il faut concevoir qu'il y a une faculté, disons, centralisatrice des sensations et que ce n'est pas uniquement, et qu'il ne suffit pas d'avoir les organes sensoriels adéquats pour qu'on se rende compte qu'on sent. D'autres, plus tard, donneront d'autres arguments. Hein, par exemple, le fait qu'on peut être, avoir l'œil intact, mais le nerf sectionné, le nerf optique sectionné, et qu'à ce moment-là, même si l'œil est intact, on ne voit pas, parce que l'information ne passe pas. Donc on sait, il y avait déjà des études pour essayer de situer où se trouvait cette conscience centralisatrice, et certains proposaient déjà le cerveau, d'autres le cœur, il y avait des discussions. Donc Platon fait allusion là à quelque chose de déjà discuté à l'époque. Mais donc ça, c'est une preuve importante pour dire que cette théorie de la rencontre qui produit la sensation est difficile à tenir, puisqu'on sait bien qu'il faut qu'il y ait... L'âme entière, cette faculté centralisatrice, il l'appelle l'âme en elle-même. Il faut que l'âme en elle-même reçoive les sensations. Et donc, à ce moment-là, on n'est pas dans un simple contact avec des flux. Il y a autre chose. Et en plus, l'âme, elle est seule capable de juger si une chose est ou n'est pas. C'est pas possible d'être donné par la sensation, puisque la sensation, on l'a vu par l'hypothèse du rêve ou de la folie, elle nous renseigne aussi sur des choses qui ne sont pas. Elle nous fait passer pour étant ce qui n'est pas étant. Donc, il faut un jugement, un raisonnement de l'âme pour trancher la question est-ce qu'une chose est ou n'est pas. En outre, on peut encore lui attribuer plus de choses nécessaires. Pour pouvoir comparer justement entre elles des sensations différentes qui arrivent en même temps, il faut avoir les notions de semblables et de dissemblables pour dire est-ce que ce sont les mêmes ou d'autres sensations qui arrivent. Donc, il faut avoir les notions de identique et de différent. les notions de opposé, puisque ça peut être des sensations opposées qui arrivent en même temps, etc., etc. Donc on multiplie une série de notions qui sont nécessaires pour avoir cette conscience, disons synergique ou synthétique de plusieurs sensations, expériences qu'on ne peut pas nier puisque nous l'éprouvons effectivement. C'est une expérience qui nous arrive effectivement. Alors remarquez bien que Platon frôle ici, il est presque arrivé à ce que Kant élabora comme théorie sous le terme de transcendantal. Il est presque arrivé au transcendantal kantien, c'est-à-dire, je vous rappelle, donc, c'est le transcendantal, ce sont les conditions de possibilité avant toute expérience pour justement que l'expérience soit possible. Donc Kant disait, pour qu'une expérience sensorielle soit possible, il faut qu'il y ait en nous certaines structures qui appréhendent, qui nous permettent d'appréhender des objets sensibles. Ces structures sont a priori, et a priori signifie avant toute expérience. Elles doivent être en nous avant toute expérience. Bon, de manière innée, autant dire, hein, il faut des structures innées. Et voilà, structure, condition a priori ou transcendantale, c'est la même chose. C'est ça que ça veut dire chez Kant. Et notamment, chez Kant, c'était surtout la temporalité et la spatialité. Donc il disait qu'il doit y avoir en nous une notion de spatialité par laquelle nous rangeons les objets dans un espace dont nous ne pouvons pas dire qu'il est dans les choses elles-mêmes. Et même chose pour la temporalité, nous les rangeons dans un ordre de succession dont nous ne pouvons pas dire qu'il est vraiment dans les choses. Bon, ici, Platon est tout près de dire le semblable et le dissemblable, l'identité et la différence, ce sont des transcendantaux, c'est-à-dire des conditions de possibilité innées pour pouvoir faire des expériences. Puisque pour pouvoir recevoir des sensations simultanées, il est distingué, ne pas les prendre en une seule, mais bien voir qu'il y en a deux et même de types différents. Pour pouvoir faire ça, il faut déjà avoir, non pas bien sûr la définition conceptuelle, mais enfin il faut déjà savoir ce que c'est que différent et identique. Pour reconnaître que deux choses sont différentes, il faut savoir ce que c'est différent. Donc ça vient avant toute expérience. On ne peut pas dire que ça vient de l'expérience répétée, c'est-à-dire on ne peut pas dire que de la même manière qu'à force de voir des tables, on a la notion générale de table, de la même manière on dirait à force de voir des choses identiques, on a la notion d'identique. Mais pour pouvoir voir justement que ces choses sont identiques, il faut déjà avoir la notion d'identique. Donc là, on voit qu'il y aurait quelque chose comme un transcendantal. Mais Platon ne fait pas le pas de dire explicitement ça. Il est tout prêt, mais il ne le dit pas. Il dit simplement il faut poser que l'âme a besoin d'autre chose que des sensations. Tout ne peut pas, tous les jugements qu'elle produit, toute la conscience qu'elle a, ne peut pas lui venir uniquement des sensations. Donc ça invalide la théorie qui dit que la sensation est la science, à elle toute seule. Donc de cette manière, Socrate essaye de rendre compte du fait que, estime avoir rendu compte du fait que la science ne peut pas être simplement la sensation. Tétède va alors tenter une deuxième définition. Et cette deuxième définition, c'est quelque chose qu'il a entendu dire et qui lui semble peut-être adéquat, c'est que la science, c'est l'opinion vraie. C'est l'opinion vraie. Il veut s'en tenir au terme d'opinion parce qu'il est très admiratif de Protagoras et il veut continuer à penser dans le sillage de Protagoras qu'il n'y a au fond de tous les discours et les pensées, il n'y a que des opinions. Les discours et les pensées peuvent s'affronter, mais toujours en tant qu'opinion. Donc il refuse la distinction platonicienne entre opinion et science. Il dit « la science, c'est l'opinion ». Mais l'opinion vraie. Donc il accepte par là qu'il y a aussi des opinions fausses. Donc c'est déjà une grande concession par rapport à sa première définition et par rapport à ce que Protagoras aurait pensé. Il accepte qu'il y ait des opinions fausses. Alors, ce n'est pas pourquoi est-ce qu'il concède ça ? Ce n'est pas grâce au fait que Protagoras reconnaissait des opinions meilleures que d'autres, puisqu'on a vu que le meilleur pour Protagoras n'était pas le plus vrai. C'était juste le plus efficace ou le plus utile. Mais il a dû le concéder à cause de l'argument des spécialistes. C'est-à-dire que, à cause du fait qu'un médecin a une opinion plus vraie, qu'un profane sur l'évolution d'une maladie, bah, à partir de là, on est obligé d'accepter qu'il y a des opinions, ne fût-ce que plus vraies ou plus fausses, bah, c'est déjà introduire le vrai et le faux. Donc il accepte qu'il y ait des opinions fausses. Mais la mise à l'épreuve de cette deuxième définition devra passer forcément par la question « qu'est-ce qui distingue le vrai du faux alors ?» Donc si la science est l'opinion vraie, comment est-ce qu'on va vérifier qu'une opinion est vraie ? Et donc, comment survient l'erreur ? Est-ce qu'on peut avoir une connaissance de l'erreur ? Comment ça naît l'erreur ? C'est quoi une opinion fausse ? Alors, il envisage toute une série de possibilités qui seraient des confusions, qui seraient toutes des confusions entre quelque chose qu'on sent et quelque chose qu'on ne sent pas, quelque chose qu'on connaît et quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, il envisage une combinatoire de ces quatre termes, hein, en les prenant chaque fois deux à deux, et en examinant si cette possibilité peut être source d'une erreur. Alors, je ne fais pas tout le détail, bien sûr, hein, je résume. Il les élimine tout au fur et à mesure, jusqu'à tomber sur cette possibilité que, si on prend deux choses qu'on connaît, donc deux connaissances qu'on a acquises, et qu'on se trouve à nouveau confronté à elles par la sensation. Donc, ces deux choses, on les voit. Hein, prenons la vue. Ça marche avec n'importe quel sens. Prenons la vue. Il dit, supposons que je connais Théétète et Théodore, et je les vois tous les deux arriver au loin. Il peut se faire que je les confonde tous les deux. Je les connais tous les deux, et pourtant je prends l'un pour l'autre. À la vue, je les prends l'un pour l'autre. Donc, c'est une erreur, c'est une opinion fausse. Et c'est produit par le fait que je confonds une connaissance que j'ai avec une autre connaissance que j'ai. Je confonds Théétète que je vois avec l'image de Théodore que j'ai en moi. Donc c'est une mauvaise adéquation entre la science que j'ai déjà acquise de Théétète et la sensation de Théétète que j'ai maintenant, que j'éprouve en ce moment. Donc ça pourrait être l'erreur. Il envisage un autre cas d'erreur aussi, c'est l'erreur mathématique. Bon, je peux savoir ce que c'est 5, ce que c'est 7, ce que font 5 plus 7, et pourtant je peux me tromper et dire ça fait 11 au lieu de 12. Et je peux le savoir même si j'ai bien appris le calcul et si je ne me trompe pas tout le temps. Et même chose avec la lecture. Je peux bien connaître toutes les lettres, tous les mots, et pourtant parfois me tromper en lisant. Donc, il faut faire une grande distinction entre la science acquise, la connaissance acquise, et la science en exercice. Là aussi, le couple puissance-acte sera bien pratique quand Aristote l'installera, parce qu'on pourra dire, une fois que la science est acquise, elle est en puissance d'être exercée. Et donc, j'ai la capacité désormais de dire combien font 5 plus 7 à partir du moment où je l'ai acquis une première fois. Ça reste en moi. Mais au moment de passer à cet exercice de ce que j'ai acquis, je peux me tromper. Ça n'empêche pas que je l'ai acquis. Ça ne veut pas dire que je suis toujours dans la même ignorance qu'avant de l'avoir appris. Je l'ai appris. J'ai acquis ce savoir. J'ai la science. Mais je peux encore me tromper. Donc ça, c'est une distinction qui est introduite pour essayer de montrer qu'on peut en même temps savoir et se tromper. Mais alors, il y a une comparaison alors qui vient avec des oiseaux qu'on capturerait et qu'on enfermerait dans une grande volière. On mettrait tous les oiseaux ensemble. Donc tous ces oiseaux, on les a acquis. Hein, c'est comme les connaissances acquises. Ils figurent les connaissances acquises. Et puis au moment où on voudrait aller chercher un de ces oiseaux précis, en particulier, on pourrait se tromper et prendre un autre, celui qu'on ne voulait pas prendre. Donc il s'agit bien de... On les a bien acquis, on ne peut pas dire qu'on n'a pas cette connaissance. On ne peut pas dire qu'on n'a pas les oiseaux capturés. Mais on se trompe parmi les connaissances qu'on a et on prend la mauvaise au moment où on veut réactiver une connaissance qu'on a déjà. Mais alors, dit Théétète, en fait, ce serait la connaissance qui serait cause de l'erreur dans la connaissance. Hein. On se tromperait entre des connaissances. Mais comment est-ce qu'on peut départager alors ? Comment ça se fait qu'en prenant une connaissance qui est réelle, au lieu d'une autre connaissance qui est tout aussi réelle, l'une est fausse et l'autre est vraie. Donc il a l'impression que la connaissance est elle-même source d'erreur. Comment c'est possible ça ? Bon, Socrate balaye à ce moment-là la définition en disant il nous manque quelque chose à notre définition parce qu'on devrait introduire une science de la science et de la non-science, hein, de la science et de son opposé. Il faudrait essayer de distinguer quelles connaissances sont des vraies connaissances et quelles connaissances sont des connaissances qui induisent en erreur. Donc pour ça, il faudrait une autre connaissance. Donc en fait, on tourne en rond. Hein, on suppose ce qu'on doit justement trouver. Et il écarte, peut-être de manière un peu rapide, hein, par cette objection-là, il écarte un peu vite cette deuxième tentative de définition. Et donc on va arriver à la troisième tentative de définition. C'est, t'étais dit, ah oui, mais je me souviens maintenant avoir entendu dire qu'il fallait ajouter, à l'opinion vraie, il fallait ajouter accompagné de logos. Accompagné d'un logos. Et le logos ici, d'après ce qui vient directement, d'après la suite du texte, on voit qu'il faut le comprendre au sens de définition. Et donc, Tétet parle de d'autres philosophes, on ne sait pas trop lesquels, qui auraient proposé que la science est l'opinion droite accompagnée d'une définition, parce que seul ce qui peut être défini peut être connu scientifiquement. C'est ça leur thèse. La connaissance scientifique passe par la définition. Alors, c'est des gens assez proches de Socrate, hein. Vous voyez, c'est probablement une des écoles qui a suivi l'enseignement de Socrate et puis qui a fait son propre chemin contemporain à celui de Platon. Et ces mêmes personnes disent que, pour donner justement un exemple de ce qui est définissable et ce qui n'est pas définissable, donc ce qui est connaissable scientifiquement et ce qui ne l'est pas, ils disent que tout ce qui est simple, les éléments simples d'un composé ne sont pas connaissables parce qu'ils ne sont pas définissables. Ils prennent pour exemple les lettres et les syllabes. On peut faire une définition d'une syllabe justement en donnant ce dont elle est composée. La définition d'une syllabe passe par ce dont elle est composée. Si on veut définir ba, on dira ben c'est l'association du b et du a dans cet ordre-là. Mais comment définir une des lettres puisque on ne peut plus la décomposer? Si une définition passe toujours par la décomposition, on ne peut pas définir ce qui est indécomposable. Comment on va définir le B et le A séparés? On ne peut pas les définir. Mais ça, évidemment, c'est parce qu'ils considèrent qu'une définition doit nécessairement passer par une décomposition de ce que c'est. Mais ce n'est pas totalement absurde, parce que si vous réfléchissez à une définition, c'est toujours une formule qui comporte plusieurs mots. C'est toujours, si on dit par exemple « l'homme est un animal qui possède la raison », on a décomposé l'homme entre sa part animale et sa part de raison. On l'a bien décomposé en montrant qu'il a ben voilà, plusieurs aspects et qu'en les mettant ensemble, on arrive à le saisir en propre. Peu importe la valeur de cette définition, mais c'est vrai que chaque fois qu'on définit, on passe par quelque chose comme ça. Donc ce qui est absolument simple, on ne peut pas le décomposer comme ça. Donc l'élément qui par définition est simple, on ne peut pas le décomposer, on ne peut pas le définir, donc il échappe à la science. Ça c'est la théorie qu'il faut maintenant mettre à l'épreuve. Comment est-ce qu'on va la mettre à l'épreuve? Mais Socrate estime qu'il n'est pas du tout certain que l'élément ne soit pas définissable et ne soit pas connaissable. En fait, c'est contraire à l'expérience, parce que par expérience, on sait qu'on a une connaissance très claire et même plus claire des éléments séparés que de la totalité, enfin que de la totalité qui forme avec d'autres. Et il commence par faire toute une investigation du rapport entre un tout et ses parties. Un tout, quel qu'il soit, que ce soit quelque chose d'aussi simple qu'une syllabe ou que ce soit un organisme vivant, par exemple, comme un tout ne se réduit pas, dit-il, à la simple addition de ses parties. Même le simple ba est autre chose que le b et le a, juste, simplement juxtaposés. C'est plus que ça. Ça signifie autre chose. Et donc, il faut dire qu'un tout est en fait une forme unique, une forme unitaire. Un tout, ça forme une unité qui est définissable en tant qu'unité. Parce que quand on définit une syllabe, ce qu'on vise, c'est ce qu'elle signifie comme syllabe, et non pas ce que signifient le B et le A séparément. C'est encore plus vrai si on prend des touts comme, ben voilà, par exemple, un corps complet. Bien entendu, le corps ne se réduit pas à la somme de ses parties. Il y a beaucoup plus dans un tout organique que la somme de ses parties, puisqu'il y a des tas de propriétés qui seraient impossibles si toutes ces parties n'étaient pas réunies et n'étaient pas en synergie. Donc, la définition du tout, c'est la définition de la forme unitaire, justement. Et par là, on réfute hein, cette proposition, cette théorie de la définition qui était une définition, c'est simplement la décomposition en partie. C'est faux. Une définition n'est pas une décomposition en partie. Une définition, elle doit atteindre la forme du tout. Et donc, ça doit passer par autre chose. Alors, tout ça prépare, évidemment, hein, toute une théorie de la définition qui ne va pas cesser de se développer chez Platon et chez Aristote après. Par conséquent, la conclusion, c'est que si ceux qui ont proposé cette théorie disent que l'élément n'est pas définissable parce qu'il est un, alors ils doivent dire que le tout n'est pas définissable non plus puisqu'on a dit qu'il est aussi un. Puisque c'est en tant que un, c'est en tant que forme une qu'on essaye de le définir. Donc il n'est pas non plus définissable. En tant que tout, il n'est pas définissable puisqu'il est un en tant que tout. Donc on tombe dans, on, vraiment, on voit qu'elle ne résiste pas à l'épreuve, cette proposition. Et il propose alors de comprendre peut-être d'une autre manière le mot logos, parce que le mot logos, bon, les Grecs savent très bien qu'il a de multiples significations, donc peut-être qu'on peut le comprendre avec une autre signification que définition. La signification la plus commune, c'est discours, parole. Alors, est-ce que ça tient si on dit « la science, c'est l'opinion vraie accompagnée de discours » ? Non, ça n'a pas de sens, puisque l'opinion, c'est déjà un discours. Donc ça n'a pas de sens de lui ajouter dans sa définition. Hein, donc il faut écarter cette signification-là. Il y a une autre signification qui est un peu difficile pour nous à comprendre dans la description de Platon, c'est le fait d'énumérer les éléments chacun à la bonne place. Donc dire par exemple, épeler par exemple un mot en ne se trompant pas dans la place de chaque lettre et en ne confondant pas une lettre avec une autre. Donc ce qui serait au fond une énumération, hein, logos au sens de énumération. Bon, c'est un sens qui effectivement peut se trouver. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça ? Que donc la science, c'est l'opinion vraie, accompagnée d'une énumération de chacun des éléments mis dans le bon sens. Mais là aussi, il l'écarte en disant qu'il faut déjà mettre ça dans l'opinion. En fait, l'opinion vraie elle-même contient déjà ça. Parce que si on dit qu'on a simplement, qu'on sait simplement écrire un mot, et qu'on ne dit pas encore qu'on en a une connaissance scientifique s'il s'agit simplement d'écrire un mot correctement. On ne dit pas que c'est une connaissance scientifique, c'est une simple opinion sur la manière dont s'écrit le mot. Donc en fait, on n'a pas besoin c'est pas ça qui distingue opinion et science. Si maintenant on dit, troisième signification possible de logos, le logos, ce serait ce signe distinctif qui appartient à une chose en propre et qui la différencie de toutes les autres. Autrement dit, ça s'appelle la différence. Ce qui fait donc, on peut même dire que c'est ce qui fait la définition en fait, hein, d'une chose, c'est sa différence. C'est-à-dire c'est ce qui finalement l'identifie par différenciation de tout le reste. Hein, et donc là, on peut saisir ce qu'elle a en propre, ce qu'il n'y a que cette chose-là qui possède. Et donc là, on l'a cerné. Donc, est-ce qu'on prend logos au sens simplement de différence ? Et on dira alors, la science, c'est l'opinion vraie accompagnée de la différence. Mais de nouveau, là, on va se dire, mais pourquoi est-ce que l'opinion vraie n'a pas déjà cette connaissance de la différence ? Si on a une opinion sur quelque chose, cette chose-là, on la distingue déjà des autres choses. Sinon, on ne saurait pas sur quoi on a une opinion. Hein, si on ne distinguait pas l'objet de cette opinion de tous les autres objets d'opinion. Bon. Donc, la différence, elle fait déjà partie de l'opinion aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'ajouter ? Alors, il y a deux possibilités. On peut encore ajouter qu'il y a une différence scientifique et une différence doxique, hein, une différence qui n'est qu'opinion. Il y aurait une autre différence à partir du moment où on a la science. Il y aurait une différence qui serait propre à la science, une différence vraiment scientifique qu'on pourrait atteindre par toute une méthode scientifique et qui ne serait pas à la disposition de l'opinion. Mais si on dit ça, donc si on dit, il y a deux possibilités, je disais, si on ne dit pas ça, alors on n'a pas besoin de l'ajouter. Hein. Si on dit que l'opinion que la différence, elle est dans l'opinion, on n'a pas besoin d'ajouter la différence et on retombe sur la deuxième définition. Mais si on dit la différence scientifique, elle est différente, elle est autre, c'est autre chose, alors on peut l'ajouter. Mais alors, on commettra une autre erreur, c'est de dire la science, c'est l'opinion vraie, accompagnée d'une différence scientifique. Autrement dit, on met dans la définition de la science ce qui est à définir. On met la science dans la définition, dans sa propre définition. On doit déjà supposer ce que ça veut dire scientifique, hein, pour pouvoir définir la science. Donc, c'est une définition circulaire, et on s'en sort pas. Et on s'en sort pas. Et c'est comme ça que se termine le dialogue tête-tête. Donc c'est très curieux parce qu'on dirait que Platon renoue au fond un peu avec ses premiers dialogues qui étaient aporétiques, qui ne débouchaient pas sur une certitude en tout cas. Alors on peut dire qu'on a avancé sur des tas de points, mais on n'est pas arrivé tout à fait à cette définition de ce qu'est la science. Alors les interprètes ont pensé que c'était peut-être en fait une critique de tête-tête lui-même, qui peut-être, au fond, se révélait ainsi, ne pas être l'interlocuteur adéquat, ne pas avoir, au fond, été cette âme prête à être accouchée d'un bon produit, et que peut-être, il faut y voir le fait que la maïeutique ne réussit pas toujours, parce que il y a, enfin, comme le disait d'ailleurs Socrate lui-même au début, hein, il y a des personnes qui ne sont grosses que de vent. Et donc, quand on essaye de faire sortir quelque chose, il n'y a que du vent, ce n'était pas une vraie matière qui était là, prête à sortir. Bon. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est simplement une critique de Théétète? En ce sens que Théétète est trop influencé par Protagoras et par les sophistes. Hein, il est trop... c'est un interlocuteur qui a trop de faux savoirs. Alors, c'est possible, mais une objection contre cette idée-là, c'est que à la fin du dialogue, Socrate dit « Je propose qu'on se retrouve demain pour continuer cette discussion. » Et au début du sophiste, on fait allusion au tête-à-tête qui s'est passé la veille. Donc le rendez-vous du lendemain, c'est le rendez-vous pour discuter de la définition du sophiste. Et cette définition du sophiste, elle va reprendre la question de l'erreur. Elle va reprendre la question de « Comment peut-on dire le faux ?» Comme on le verra la fois prochaine. « Comment peut-on dire le faux ?» Donc la discussion n'est pas finie et ce n'est pas du tout par hasard que l'interlocuteur de Socrate est à nouveau Théétète. Donc c'est pas vrai qu'on a considéré que Théétète n'était pas un bon interlocuteur. Simplement, on n'a pas fini. Le Théétète, il n'est pas fini. Il faut le faire poursuivre par le sophiste. Et c'est le même interlocuteur Théétète, il est toujours bon. C'est le bon petit gars. Il va continuer. Et on verra comment il continue à faire la bonne réplique dans le sophiste. Voilà.
Il y a deux questions qui restent en suspens, mais peut-être elles sont résolues plus tard, hein, le lendemain. S'il élimine la question de la mémoire, quand on revient aux sensations, comment on peut comprendre alors l'histoire, par exemple, de la Madeleine de Proust, hein, une sensation qui est là parce qu'il y en a, il y a une connaissance précédente. Donc là, il y a bien la mémoire de cette connaissance qui fait vivre ça. Et oui. Puis, la deuxième question, c'est... je crois que c'est sur la vérité des sensations. Comment on peut intégrer, par exemple, par rapport à une sensation, la connaissance contraire, c'est-à-dire bon, l'histoire du soleil qui tourne autour de la Terre et avec la connaissance scientifique qui est l'inverse. Est-ce que ça s'intègre à ce moment-là? Voilà, c'est...
Oui, oui. Alors, effectivement, c'est tout à fait important et c'est vrai que cette très très courte allusion à la mémoire, c'était juste pour essayer de prendre Protagoras en défaut. C'est-à-dire qu'on attribue à Protagoras l'idée que la mémoire n'est pas possible puisqu'elle n'est pas une sensation, enfin, n'est pas une connaissance puisqu'elle n'est pas une sensation. Et c'est évidemment parce qu'on a d'abord réduit toute la connaissance à la sensation. Mais il faut dire, et là, on le remarque, si on fait attention, on le remarque à plusieurs reprises, que Platon joue un peu sophistiquement sur la proximité des termes connaissance et science. Parce que quand il dit, donc c'est la science qu'on essaie de définir par la sensation, mais quand il dit la mémoire n'est pas une connaissance, parce qu'elle n'est pas une sensation, on aurait pu là lui objecter, elle est une connaissance, mais elle n'est pas une science. Et c'était son objection ne tenait plus. Hein, donc il y a quelque chose de, il y a parfois encore des petits travers sophistiques dans l'ensemble de cette argumentation. Et donc le cas de la mémoire, c'est clair. Alors sur la mémoire, il va y revenir Platon dans le Philebe, qui est un dialogue qu'on va aussi voir prochainement. Il revient sur la question de la mémoire et il insiste justement sur son importance pour diverses raisons d'ailleurs son importance. Donc on y reviendra. Et alors pour l'autre question, sur comment est-ce qu'on corrige évidemment la vérité des sensations, ici évidemment il a juste commencé à dire qu'un raisonnement de l'âme est nécessaire sur les sensations, mais il ne veut pas donner trop d'arguments qui seraient que l'adversaire ne reconnaîtrait pas. Donc, tous les arguments qu'il essaye d'opposer à Protagoras, c'est des arguments que Protagoras est obligé de reconnaître. Parce que ce sont ses propres arguments, par exemple. Hein. Il se dit lui-même savant, il dit lui-même qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Donc, il essaie de ne donner que des arguments que Protagoras ne peut pas refuser. Donc, il ne peut pas venir dire, bon, nous avons d'autres moyens de connaissance qui sont... parce que, bien sûr, il le sait qu'il y a des sortes de méthodes de correction de ce que... par exemple, le fait qu'on sait bien que ce qui est loin paraît petit ou que ce qui... des tas de choses et qu'on peut corriger. Que bien souvent, le raisonnement scientifique, justement, corrige la sensation. Ça, il le sait. Mais c'est justement ce que lui essaye de défendre, c'est que la science est bien plus que la sensation. Mais donc, il ne peut pas partir du fait comme si c'était une évidence et reconnue par tout le monde. Puisque précisément, l'adversaire ne reconnaît pas ça. L'adversaire ne reconnaît pas qu'on doive corriger les sensations. Ou si vous voulez, l'adversaire, il dirait... les opinions sont tout à fait égales qui disent que c'est la Terre qui tourne ou que c'est le Soleil qui tourne. Ces opinions sont tout à fait égales. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de venir dire dogmatiquement que ces opinions ne sont pas égales. C'est justement ce qu'il faut démontrer.
Est-ce que tu peux préciser quelle est l'étymologie du mot « science » au moment où il était... Enfin, dans cette discussion-là, il y avait forcément une étymologie.
Oui, épistémé. Donc, je ne suis pas sûre que... Si on peut essayer. Épistémé. Donc, le épi, c'est sûr. Et ici, je ne suis pas sûre. Il faudrait que je vérifie. Mais ce serait intéressant qu'on ait ici le verbe istémie, qui signifie... Être fixé, être arrêté. Et donc, la science, c'est ce sur quoi on est arrêté. Je pense bien que c'est... Je devrais vérifier, mais je pense bien que c'est ça. Et que effectivement, ça aussi, c'est toute la discussion sur la mouvance perpétuelle à avoir avec... évidemment, est en opposition, mais Platon n'a pas recours à l'étymologie. Pourtant, à d'autres moments, il recourt parfois à l'étymologie comme argument. Mais là, non, il n'utilise pas. En latin, scientia, ascire, oui. Oui. Mais là, par contre, on ne peut pas aller plus loin. C'est simplement savoir. Alors qu'ici, il y a deux mots différents pour savoir. On peut utiliser le verbe epistamai, qui est construit sur epistemai, ou bien le verbe eidenai, qui a à voir avec eidos, par exemple, et donc avec la vision au départ. Donc, on peut utiliser le mot, disons, le plus courant pour savoir, qui est plus large, ou bien le mot fondé sur épistémé et qui est vraiment la connaissance scientifique, alors avec une série de critères. Mais c'est intéressant, effectivement, cette étymologie, puisque, effectivement, Platon défend l'idée que la science, c'est bien un arrêt sur quelque chose. C'est bien quand on a fixé quelque chose qu'on le connaît scientifiquement. Et c'est ce que refusent les Héraclitéens. Hein, c'est précisément pour ça qu'il n'y a pas de science chez eux, puisqu'il n'y a jamais d'arrêt. Il n'y a jamais un moment où on peut saisir quelque chose. Ils vont jusqu'à dire que même une sensation n'est pas possible, puisqu'elle-même serait déjà un arrêt. Hein, même cette rencontre instantanée entre un flux extérieur et nos organes, même cette rencontre instantanée, c'est encore une fixation, puisqu'on dit, ne fût-ce qu'instantanément, il y a une image qui s'arrête. Il y a une image qui est identifiée, qui est cernée. Et c'est déjà trop pour eux. Puisque il peut jamais y avoir d'arrêt. Mais donc c'est ouais, l'idée de s'arrêter sur quelque chose, c'est. Oui.
J'ai une interrogation, j'ai pas bien compris sans doute ce que tu nous as dit.
quand on est dans la sensation, on ne peut pas connaître le phénomène. Mais le phénomène n'existe que par la sensation.
Alors, je ne reconnais pas le moment de l'argumentation. Si, le phénomène n'apparaît que à la sensation, bien sûr. Enfin, bon, c'est-à-dire, je ne vois plus très bien à quel moment du raisonnement ça correspond, mais pour le reprendre, donc, si on est dans la théorie de Protagoras, on ne parle pas vraiment de phénomène, enfin, il parle vraiment de l'apparition de quelque chose, et l'apparition est limitée à ce qui apparaît aux sensations. Alors que quand Kant parlera des phénomènes, il parlera de ce qui apparaît aussi bien à nos sensations que à notre entendement. Donc c'est aussi tout ce qui nous apparaît par raisonnement, par méthode scientifique incluse. Hein, donc tout ce qu'on peut découvrir scientifiquement, c'est encore du phénomène hein, pour Kant. C'est toujours pas la chose en soi. Donc, mais de toute façon, dans les deux cas, le phénomène, c'est ce qu'on peut connaître. Mais ce qu'on peut contester, c'est que ça nous donne accès à la chose elle-même, justement, à ce que la chose est en elle-même. Ça, on peut en douter, encore maintenant, on peut en douter. Je veux dire, même quand on connaît de la manière la plus scientifique possible une chose, est-ce qu'on peut dire pour autant qu'on a atteint ce qu'elle est en elle-même ? Rien ne nous permet de le dire. Hein, donc, c'est là vraiment la différence entre connaître d'une façon quelconque, c'est-à-dire avoir une certaine appréhension, une certaine information sur les choses, et connaître l'être de la chose. Ce que c'est vraiment que cette chose. Et ça, ben, on peut dire que, d'une certaine manière, on pourrait parfaitement soutenir qu'on ne l'atteint jamais. Si on admet cette limitation qu'a instauré Kant, je pense qu'elle est d'une certaine manière indépassable. On ne saura jamais ce que la chose est en elle-même. On ne saura jamais que ce qu'elle est pour nous. Voilà. Est-ce que ça répond ?
Ça précise bien la question. Non.
C'est juste pour dire que par rapport à ce que tu disais, par rapport au concept de... par rapport à la différence et à la ressemblance et l'analogie avec Kant, justement, les concepts de comparaison, la différence et la ressemblance sont pour Kant, enfin, on les appelle les concepts de comparaison, et c'est ce qui est à l'origine de la catégorie de la quantité, en fait. C'est-à-dire qu'en comparant les choses dans leur différence et leur ressemblance, on peut les compter. Si une chose a du rouge de la même façon qu'une autre rouge, il y a deux choses rouges par exemple. Donc les concepts de comparaison, identité et différence sont mis en œuvre pour la catégorie de la quantité qui est une structure justement de la connaissance. A priori, chez Kant, voilà, enfin, je pourrais le relire pour expliquer un peu mieux. Mais voilà, je me souviens de ça. C'est Béatrice Longuenès qui explique vraiment très bien ce passage.
Oui, eh bien, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les catégories de l'entendement. Donc, en fait, il y a... les catégories de l'entendement, ce sont les conditions de possibilité, a priori, de toute... connaissance par l'entendement, donc de toute compréhension, de tout raisonnement. Et c'est intéressant qu'il n'en fait pas des conditions a priori de la sensibilité. Donc Kant ne dit pas qu'on a besoin de ces catégories de ressemblance ou de différence pour sentir, mais on en a besoin pour penser ce qu'on sent. Et donc effectivement pour ranger, comparer. Et donc il fait aussi de la comparaison entre les sensations une étape qui n'est déjà plus au niveau de la sensation. Voilà, c'est assez intéressant parce qu'on n'est pas obligé de faire ça. Enfin, Aristote, par exemple, il le met encore au niveau de la sensation. Le fait de pouvoir comparer deux sensations, il dit que ça se fait par cette faculté réceptrice hein, qu'il appelle l'organe sensoriel central. Mais pour lui, ce n'est pas encore une intervention du raisonnement sur nos sensations, alors que pour Kant, bien. Donc, ce qui fait il fait intervenir ces catégories-là et effectivement, on a besoin de les avoir avant... avant toute possibilité effectivement de comparer. Enfin, c'est elle qui donne cette possibilité. C'est curieux hein, que dans ce transcendantal, on peut le partager de différentes façons. Quoi. Est-ce qu'on peut sentir avant de comparer ou pas?
Est-ce que à l'inverse, on pourrait se servir de cette théorie-là pour qualifier, par exemple, dans une œuvre d'art, ce qu'elle a d'unique, dans le fait que, justement, on ne peut absolument pas la comparer à nulle autre et qu'on ne peut pas l'additionner et ni la compter, ni la comparer?
Oui, c'est sûr que... Elle est extraordinairement puissante, notre faculté de comparaison, puisqu'on peut remarquer le moindre petit détail qui, effectivement, distingue, hein, le moindre petit aspect qui distingue une chose d'une autre, alors même qu'elles sont quasiment identiques. Donc, il y a toute une série de gradations, et tout ça, on peut effectivement le percevoir, en tout cas par la vue. C'est aussi pour ça... Dans une musique, ça pourrait être pareil. Hein, on pourrait sentir le moindre petit écart de ton, etc. Bon, si on est entraîné. Donc, oui, de fait, ces facultés sont puissantes. Et ça renforcerait l'idée quand même que ça se passe au niveau de la sensation, déjà. La comparaison. Le fait de sentir le semblable et le dissemblable. Enfin, moi, ça me convainc plus de le placer comme une condition de la sensation, parce que comment recevoir plusieurs informations en même temps? Et on a tout le temps plusieurs informations en même temps. Je veux dire, un ensemble visuel, une scène qu'on voit, elle est composée d'énormément de fragments différents. Il faut bien mettre tous ces fragments ensemble, et pour les mettre ensemble, il faut les distinguer. Je ne distingue pas une seule chose confuse, je distingue toutes les parties de la scène. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que je les différencie. Donc, il me semble que c'est une condition de la sensation aussi de différencier, mais voilà, peut-être ça se discute.
Peut-être justement, à propos de la vision, le fait de percevoir à la fois les formes et les couleurs, c'est une reconstitution. Donc l'organe central de la perception, enfin, de la sensation dont parle Aristote, aujourd'hui on sait que ça se passe au niveau du cortex, parce que la perception des formes et toute la sensation fine de l'imitation des objets, ça se fait avec les bâtonnets, avec une très grande densité dans la rétine. Et par contre, les couleurs, on les perçoit avec des cônes, c'est d'autres types cellulaires. Et ces deux informations sont véhiculées jusqu'au cortex de façon séparée. Elles arrivent dans des zones séparées du cortex. Et ensuite, le fait que nous, on perçoit la cohérence entre la forme des objets et les zones occupées par des couleurs, c'est une construction, en fait. C'est une construction du cortex, mais au niveau secondaire de la vision. Donc on est forcément dans la comparaison, dans la juxtaposition, mais qui fait partie de ce que nous, on perçoit en tout cas comme notre sensation.
Oui, oui. Alors évidemment, là aussi, il faut distinguer le fait d'avoir cette capacité de synthèse et le fait de connaître la notion de synthèse, ce qui est tout différent, bien sûr. Hein. Avoir la capacité de synthétiser des données sensorielle, c'est tout autre chose, ça se passe tout à fait spontanément et c'est tout autre chose que de faire volontairement et je dirais peut-être réflexivement des comparaisons entre différentes données acquises ou de pouvoir dire ce que ça veut dire que l'identique et le différent. Donc il y a évidemment différents stades d'acquisition de ces notions.
Donc, est-ce que ce ne soit pas une histoire d'acquisition dès le plus jeune âge, par exemple, ce qu'il développait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas inné, c'est quelque chose qu'on acquiert peu à peu, parce que quand l'enfant naît, c'est peu à peu qu'il développe son cortex,
c'est enregistré en fait. Il y a des gens qui ont fait des expériences avec des chats, qui élèvent dans des pièces où il n'y a absolument pas de repères verticaux. Ouais. Et on sait que la perception des gens, elle est basée sur, au niveau du cortex, le fait de. Enfin, on peut reconnaître certains angles, quoi, l'une horizontale, verticale, mais on peut reconnaître un certain degré de différence entre deux angles. Mmh. Et ça provient de l'entraînement pendant le tout début de la vie. Et si on artificiellement on place des chatons dans des conditions où ils sont jamais soumis à un stimulus qui permet de voir des distinctions entre des objets verticaux ou horizontaux, en fait, ils n'acquièrent pas cette capacité à partir d'un certain stage, ils ne peuvent plus l'acquérir. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui nous semble vraiment être les bases de la perception.
Parce qu'on a oublié comment on a construit les différences.
On les construit, on les a.
On les construit, oui.
Mais je suppose que Kant répondrait que justement tout ça, ça demande une capacité qui est plus centrale, de l'entendement justement, qui est cette capacité de savoir qu'est-ce que c'est le concept de différence.
Oui, il dirait ça, mais ça c'est déjà un autre niveau. Mais il dirait aussi que la possibilité même de développer cette distinction sensorielle est aussi une structure a priori. De la même manière que l'espace et le temps. Je veux dire, tout ce qui existe n'a pas cette capacité de développer une certaine vision. Enfin, je veux dire, il faut avoir aussi la structure corporelle adéquate. Il faut avoir le cerveau adéquat, l'organe adéquat. Et donc, ça peut faire partie de ces structures a priori, quoi. Le fait qu'on a la capacité de l'acquérir par l'expérience. Mais enfin, à ce moment-là, c'est quand même une acquisition par l'expérience. Ce qui est avant l'expérience, c'est simplement une disposition de l'organe, quoi, une disposition matérielle qui en est la condition.
Moi, je suis gênée par l'utilisation du terme opinion.
Ah oui.
Et j'ai l'impression que associer opinion et vérité, ça semble pour moi quasiment contradictoire. Comme si, est-ce qu'il y a un terme qui pourrait contourner
les Anglais utilisent parfois croyance, mais pour moi c'est pire parce que bon, une croyance, ça veut dire qu'on y met fou de la foi, enfin bon, que ça s'oppose aussi beaucoup à la science, la croyance. Donc ça me paraît pire. Non, il est vrai que le mot doxa a une extension large en grec. Il vient du verbe paraître, juste, enfin sembler. Il me semble que la doxa, c'est vraiment il me semble que. Et donc ça peut être il me semble à bon escient ou il me semble à mauvais escient. Et d'ailleurs dans le Théétète, il y a un moment où Socrate donne un exemple d'opinion vraie. Donc il associe opinion et vérité en disant opinion vraie. Hein, donc il reconnaît les opinions vraies, ça existe. Il donne un exemple dans un tribunal, par exemple, les juges qui doivent juger un cas de délit n'ont pas vu le délit, ils n'ont pas assisté, et on vient plaider hein, en essayant de montrer des preuves qu'il s'est passé telle ou telle chose. Et eux, ils doivent juger uniquement sur les discours, les plaidoyers, et donc les preuves qu'on essaie de produire. Sur la manière dont l'événement s'est passé. Donc, en fait, ils ne peuvent pas en avoir une science, parce que pour en avoir une science, il faudrait qu'ils aient assisté à l'événement ou qu'ils en aient une démonstration certaine. La science, ce serait la certitude sur ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas atteindre ça. Mais ce qu'ils peuvent atteindre, c'est l'opinion vraie, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir émettre un jugement qui correspond bien à la vérité, à ce qui s'est passé. Alors, eux, ils seront jamais dans la certitude qu'ils ont atteint la vérité, mais il peut se faire que, effectivement, c'est bien ainsi que les choses se sont passées. Donc, leur opinion est vraie. Mais c'est toujours une opinion, puisque il leur était impossible de mettre en œuvre un savoir scientifique sur ce genre de choses. Et donc, souvent aussi, chez Platon, opinion et science ne s'opposent pas vraiment comme ce qui est, disons, spontanément. Ce qui doit être corrigé, hein, ce qui vient spontanément, il doit être corrigé par la science, mais souvent, c'est simplement distribué sur des terrains différents. C'est-à-dire qu'il y a des terrains scientifiques et des terrains qui ne sont pas objets de science, qui ne sont pas l'objet d'une connaissance scientifique. Parce qu'il n'y a pas de certitude à atteindre là-dessus. En fait. Voilà, donc on peut s'en tenir à l'opinion, et si elle atteint ce qui s'est effectivement passé, elle est vraie. Ça peut être un peu, au fond, c'est presque par chance, quoi. Par chance, on est tombé sur la bonne interprétation. Mais on peut pas avoir de certitude.
Mais la science n'a plus la pas de certitude.
Elle la vise. Qu'elle l'atteigne ou non, c'est une autre question, mais elle la vise. Ouais. Après, évidemment, quand on peut multiplier toute une série de méthodes de types très divers, hein, toutes des méthodes logiques, des méthodes d'observation, améliorer les observations. Je sais pas, bon, si l'événement avait été filmé, on aurait une certitude. Voilà, c'est... Oui, on peut manipuler les films, mais je veux dire, tout ça peut être pris en compte, justement. On peut vérifier si on a, le film est bien intact. Bon, faut... Pardon, il y a
Olivier. Enfin, les erreurs judiciaires ne sont pas loin.
Ah oui, parce que toutes les opinions ne sont pas vraies. Il y a aussi l'erreur, bien sûr.
Moi, simplement, la distinction qu'il faut faire entre aletheia et parésia.
Ah, c'est pas du tout pareil. La parésia, c'est la liberté de parole. Donc c'était...
Ça n'est pas le dire vrai.
Pardon ?
Ça n'est pas le dire
vrai. Ah non, non, non. C'est le dire franc, la franchise. C'est-à-dire, c'est la franchise, mais ce n'est pas nécessairement lié à la vérité. C'est le fait de ne pas craindre de parler. Le fait de ne pas devoir se retenir de parler pour une... Ouais, c'est la liberté de parole.
Alors que aletheia, c'est la vérité.
C'est la vérité. C'est le fait d'atteindre les choses telles qu'elles sont.
Je reviens sur ma question parce que j'ai pas eu une réponse qui me satisfait. Chaque phénomène est vu par chacun d'entre nous. On vit les phénomènes de manière différente les uns des autres. C'est ce que j'ai entendu dans ce que tu présentais. Donc on a une vision des choses différente. Comment peut-on faire une universalité, une manière de reprendre les choses dans un ensemble?
Mais c'est une manière très détournée dont Socrate finalement essaye de montrer qu'on peut avoir tous la même sensation. Mais justement, c'est là qu'il utilise les armes de l'adversaire, parce que ce qu'il montre, c'est pas que tout le monde peut avoir la même sensation au sens strict, parce que ça on pourrait jamais vérifier. Est-ce qu'on voit tous exactement la même chose? On pourra jamais le vérifier. C'est même probable que non, puisqu'on a des angles de vue différents, etc. Bon, mais comment est-ce qu'il montre ça? Il dit, puisque mon adversaire prétend que la sensation et l'opinion, c'est la même chose, alors, moi je vais dire, ou la sensation et la connaissance, alors je vais dire, puisque tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a certains spécialistes qui savent mieux que les autres, ceci est une opinion partagée, l'opinion c'est la même chose qu'une sensation, donc tout le monde peut avoir la même sensation ou la même connaissance des choses.
Justement.
C'est par cette assimilation, mais cette assimilation, elle lui est donnée par son adversaire, justement.
Donc,
ce serait faux si on le disait simplement comme ça. Mais, puisque...
Il y a une force là-dedans, parce que justement, dans le donc, il y a une faiblesse. C'est qu'à aucun moment, il démontre que la sensation est la même. Il démontre que le jugement est le même, mais pas la sensation.
Oui, mais c'est pour ça que je dis, ça repose uniquement sur l'affirmation de l'adversaire. Si l'adversaire a dit... l'opinion, c'est la même chose que la sensation, alors on peut dire, puisqu'il y a des opinions universelles, il y a des sensations universelles.
Oui, mais Platon donc, ne pense pas que l'opinion, c'est la même chose que la sensation.
Non.
Donc, le raisonnement qu'il tient ne tient que pour son adversaire, mais
oui.
Pas pour lui-même.
Non.
Et donc, il n'a toujours pas démontré que nous sentons la même chose.
Non, mais lui, il n'a pas besoin de le démontrer qu'on sent la même chose. Pour lui-même, c'est quelque chose dont il n'a pas besoin. En fait, il en a besoin juste pour réfuter cette proposition, mais il n'en a pas besoin pour lui-même, parce que pour lui, c'est pas la sensation qui donne la connaissance. Donc, qu'on n'ait pas tous les mêmes sensations, ça n'a aucune importance, parce que si on atteint l'idée, là, on a tous la même. L'idée est la même pour tout le monde. On disait même dans l'Antiquité que c'était une des raisons pour lesquelles Platon avait élaboré la théorie des idées, c'est qu'en fait, il était tout à fait persuadé que les choses sensibles ne donnent aucune connaissance, qu'elles sont en flux perpétuel, qu'elles sont différentes pour chaque individu, et que donc on peut baser aucune connaissance sur les choses sensibles. Et ce serait justement pour ça qu'il aurait posé le fait qu'il existe, indépendamment des choses sensibles, un autre type de réalité qui peut rassembler justement tout le monde et sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord parce que ce n'est plus relatif.
Il est proche d'une entité extérieure qui détermine.
Alors, extérieure, oui, d'une certaine manière, puisque, alors bien sûr, c'est quelque chose qu'on pense, hein, on l'atteint par la pensée, ça s'exprime sous la forme d'une pensée. Mais il est vrai que. Ce n'est pas inventé par les hommes, ni découvert par les hommes. Ça existe avant les êtres humains et indépendamment d'eux. Alors, ce n'est pas non plus une réalité matérielle qu'on peut situer quelque part, mais c'est quelque chose qui est déjà là, qui est là, à découvrir par nous, mais que nous n'inventons pas, ne créons pas.
Je pensais à l'histoire de l'évolution de l'homme et à la venue de la perspective dans la représentation.
Pourquoi pendant des siècles et des siècles il n'y a pas eu de représentation perspective? C'est pourtant on voit quand on voit la profondeur, on voit tout ça. Donc dans le débat qu'on a, je me demande ce qui fait qu'à un moment donné, il y en a qui ont posé sur une surface plane un rendu en perspective alors que ça ne se faisait pas d'où ça vient.
Platon en parle dans Le Sophiste, hein, de la perspective, et il dit que justement la vision en perspective, c'est une erreur sur les choses, parce qu'on voit petit ce qui en fait est grand. Et donc c'est une erreur, la vision en perspective. Et donc on devrait la corriger. Si on voulait représenter les choses telles qu'elles sont, on doit la corriger, la perspective. On ne doit pas la reproduire. Si on trace simplement comme on voit, on trace de manière erronée. Donc en fait, l'idée, ça serait de corriger. J'ai entendu il y a quelque temps une conférence sur la représentation chez les Égyptiens. Et les Égyptiens ne respectaient absolument pas les ordres de grandeur, parce que pour eux, ça n'avait aucune importance, la grandeur, justement, telle qu'elle est vue. Ce qui comptait, c'était la grandeur réelle des objets, et même plutôt symbolique. C'est-à-dire qu'on peut avoir, évidemment, on aura le pharaon en tout grand, le serviteur en tout petit, parce qu'on s'en fout de représenter les choses telles qu'on les voit. Ça n'a aucune importance, la vue. Ce qui compte, c'est que les choses sont en elles-mêmes, ou sont selon certains critères, par exemple, là, sociaux ou autres. Et même chose, il y avait une représentation, donc toujours chez les Égyptiens, une représentation d'un âne qui portait des charges de chaque côté, et on avait mis l'âne de profil. Alors on voyait bien sûr la charge qui était de notre côté, mais on voyait aussi l'autre charge qu'on avait mis debout derrière. Et c'était parce que l'important, c'était qu'on voit ce qu'il porte. Bien entendu qu'on sait bien qu'on ne la voit pas, la charge qui est derrière, mais c'est pas ça qui compte. Donc toujours, là où il y a une certaine dévalorisation de ce qu'on voit, ou simplement une conscience que ce qu'on voit est tout à fait faux par rapport à l'être réel des choses, on préfère représenter l'être réel des choses. Et je pense qu'on doit toujours penser à ça quand on réfléchit à cette histoire de perspective. Alors il faut penser aussi à tout ce qui était correction optique sur les temples, hein, dans la construction des temples. Ça a à voir aussi avec la vision en perspective. C'est-à-dire ce que la vision, quand on a des monuments gigantesques, que ce soit des temples ou des statues, d'ailleurs, parce que parfois elles atteignaient tellement de mètres de hauteur, qu'elles étaient déformées. Et donc, Platon dit justement, c'est ça qu'il dit dans le Sophiste, que les statues les plus hautes, on leur représente la tête plus grande proportionnellement au corps, parce que sinon on les verrait trop petites, les têtes, et ça paraîtrait bizarre. Donc, ils sont conscients de tout ça, mais ils veulent corriger.
Pour répondre peut-être sur la perspective qu'on appelle euclidienne, la Renaissance, enfin, qui a un changement total de civilisation, de connaissances scientifiques, ça a complètement modifié le regard de l'art et la représentation, et ce qu'on appelle l'œil unique, c'est-à-dire trouver un point de fuite unique, ou plusieurs points de fuite. Ça a mis tout un système de représentation qui a duré jusqu'à nos jours. C'est très impressionnant, cette forme de représentation mimétique de la nature ou de l'espace. C'est vrai que c'est remis en question, ne serait-ce que par les systèmes d'Asie. C'est très européen, hein. c'est pas l'unique façon de représenter le cosmos ou l'univers. Mais moi, je trouve qu'on est encore beaucoup trop, nous occidentaux, tributaires de cette vision de ce qu'on appelle l'œil unique, c'est-à-dire la caméra obscure, le fameux point de fuite, la ligne d'horizon. Et voilà. Enfin, c'est quand même ce dont on a hérité depuis 400 ans, 500 ans. Voilà. On peut faire les portraits de Picasso.
De Picasso. Ah. Tu peux développer.
Cette façon de représenter, par exemple, un visage qui n'est pas du tout sous l'angle sous lequel on le voit. C'est
oui.
On voit l'autre côté.
Bien sûr. Ouais. Mais les Égyptiens, quand ils représentent un visage de profil avec l'œil de face, qu'est-ce que c'est d'autre que de donner l'ensemble de la dimension? Voilà. Et c'est vrai, s'il y a eu un changement à la Renaissance et puis qui prépare l'époque moderne, c'est bien cette vision qui devient vraiment scientifique, mais d'une science particulière aussi, d'une science vraiment basée sur l'observation, c'est-à-dire vraiment le fait de voir la nature telle qu'elle est et essayer de la comprendre telle qu'elle est, qui est une... c'est sans doute une orientation nouvelle, effectivement, de l'enquête scientifique. Mais... le fait de baser tellement la connaissance sur l'observation. Et ça, c'est dû au fait aussi qu'on avait la possibilité d'augmenter les moyens d'observation. Et donc, il y a eu un essor extraordinaire des moyens d'observation. Donc, ça a redonné une confiance dans l'observation. On a pu découvrir de nouveau tellement de choses, rien qu'en observant, que donc ça a redonné confiance dans la sensation.
Oui, mais pour observer, on a été obligé de passer par des techniques et des technologies.
Oui, bien sûr.
Et là, on s'éloigne beaucoup des sens, quand même.
Non, parce que par la technique du microscope ou du télescope, on ne fait qu'augmenter la puissance de l'œil, mais ça repose sur l'œil. Quoi. Ouais.
On renverse la connaissance aussi. Par exemple, le développement des instruments optiques modernes, entre guillemets, hein, parce qu'ils sont assez...
modernes, de l'époque moderne.
Voilà, oui. Ça a renversé aussi les phénomènes de connaissance en biologie ou en physiologie. Comment on se représentait par exemple, l'avant naissance de l'enfant au 19e siècle et après la naissance de l'optique. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ont changé radicalement. Je veux dire que ça ne fait pas que continuer ou augmenter. Ça change aussi radicalement les connaissances.
Oui, bien sûr, ça, on pourrait dire que c'est une sorte de dialectique, je veux dire...
À chaque fois, c'est l'observation qui est en jeu.
Oui, mais ça a redonné confiance en l'observation, hein, le fait qu'on pouvait l'améliorer, alors que jusque-là, puisqu'on sentait l'observation tellement limitée, on a développé plutôt d'autres moyens de connaissance que l'observation. Et puis, au moment où on se rend compte qu'on peut améliorer énormément l'observation, on retrouve... tout un essor de connaissances par l'observation. Et donc, je pense qu'il y a tout le temps, comme ça, on pourrait trouver d'autres époques où il y a un va-et-vient entre le moment où on avance plus par l'observation et le moment où on avance plus par la pensée. En ce moment, maintenant, on est un peu bloqué sur l'observation. Hein. On a tout observé, on avance par les mathématiques. Voilà. Peut-être qu'on va retrouver un moyen d'augmenter encore notre observation, ça serait bien.
C'est le cas de la représentation de l'univers, quand
même. Ouais. Maintenant, c'est mathématique.
La représentation de l'univers, c'est totalement faux. Ce ne sont que des représentations mathématiques. J'ai assisté à une conférence à l'Alcazar où les spécialistes, les astronomes, disaient que ce qui nous montre n'a rien à voir avec la réalité. Ce ne sont que des purs calculs. Et nous, on trouve ça très beau, des nuages circulaires, tout ça. Donc là, nos sens, ils sont complètement hors circuit.
Ouais. Nos sens sont hors circuit pour le moment, mais... Mais enfin, ce qui est remarquable, c'est justement que, enfin, c'est avoir conscience que l'être humain, chaque fois qu'il y a une voie de connaissance qui lui est barrée, il prend une autre, quoi. C'est ça qui est formidable. C'est qu'à chaque fois, on essaye. Et puis après, l'idéal, c'est de les remettre ensemble et de vérifier ce qu'on a trouvé par une voie, vérifier si ça marche aussi par une autre, etc. Mais en tout cas, il y a la passion de la connaissance.
À un moment donné, tu as dit, on peut savoir et se tromper, et moi, je peux te poser la question, vu une année entre la séparation entre technologie et l'être, on peut savoir et tromper aussi.
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est celui qui sait qui peut le mieux tromper. Hein. Il y a aussi ça dans un des dialogues de Platon. C'est celui qui sait, c'est dans l'Hippias mineur, si vous voulez aller voir. C'est celui qui sait qui peut aussi le mieux faire le plus mal les choses, puisqu'il sait exactement ce que c'est le plus mal dans son domaine. Donc il peut aussi tromper le mieux les autres.
Sur la vérité, c'est le fait donc qui est... lequel est...
C'est pas le fait don. Le fait don, c'est sur l'immortalité de l'âme. La vérité, bon, il y a la République, c'est sur ce qu'on a déjà vu. Et sinon... un peu le sophiste, mais il n'y aura jamais vraiment, il n'y a pas un dialogue qui est vraiment une démonstration de la vérité ou de la possibilité de l'atteindre, ou pas plus que ce qu'on a vu dans la République.
C'était pour répondre à la question sur Kant, sur savoir si les structures de l'entendement précédaient ou pas la sensation. En fait, pour Kant, les catégories, donc les structures de l'entendement, ne sont ni acquises ni innées, elles sont originairement acquises. Parce qu'en fait, il y a une interdépendance entre la sensation et les catégories. C'est-à-dire que les sensations mettent en branle le système des catégories qui lui permet du coup d'avoir des sensations qui ne sont pas brutes, mais des sensations qui seraient conceptualisées quelque part. Par exemple, si on voit un arbre, on voit un arbre, on ne voit pas juste une forme floue qu'on ne sait pas identifier. Et donc pour Kant, il y a une interdépendance de la sensation et de la connaissance a priori. Voilà, il appelle ça originairement acquis. C'est ni inné ni acquis en fait.
Oui, ben, là ce que tu dis, ça peut permettre de dépasser en tout cas d'ouvrir des voies pour sortir de certaines impasses. Parce que tant qu'on reste dans la division, enfin, l'opposition entre l'inné et l'acquis, on a, à mon avis, par exemple, l'impossibilité de considérer que ce que montre la science aujourd'hui à travers les images qui correspondent à effectivement des calculs et la modélisation de ce que ces calculs permettent aux scientifiques de se représenter, ça effectivement, monsieur dit ça, nos sens sont hors circuit. Mais les sens, nos sens à nous. C'est-à-dire pour les scientifiques, ça correspond à quelque chose de l'ordre de la sensation. Dans sa correspondance, Einstein, par exemple, il insistait sur le fait qu'il est allé chercher des outils mathématiques pour traduire ce que lui, il voyait dans cette œuvre. Et il insiste sur le caractère visuel de ces représentations scientifiques, pardon, qui ont donné lieu à la théorie de la relativité. C'est-à-dire, il avait sans doute une manière de voir et de se représenter les choses qui déjoue des modes installés et habituels de perception. Et ce que montre la mise en place du système perspectiviste de représentation à la Renaissance dans la peinture italienne, c'est bien que tout ça, c'est une construction. Et que le fait de mobiliser la géométrie euclidienne et la manière dont, après tout, on a interprété à un certain moment qu'elle traduisait notre manière habituelle de percevoir, ça aussi, c'est une construction. Et si aujourd'hui, on est dans l'impossibilité de comprendre ce que nous montrent des scientifiques qui traduisent en images les résultats de la théorie de la relativité, c'est pas forcément leur faute à eux, c'est peut-être aussi la faute à tout un système de conditionnement qui fait que nos modes habituels de perception nous empêchent d'admettre la possibilité qu'on puisse percevoir les choses autrement. Voilà. Et après, pour revenir à Kant, la question c'est de savoir est-ce que l'originairement acquis chez Kant comme manière de faire jouer autrement l'inné et l'acquis, ça laisse la possibilité d'envisager justement qu'on n'est pas dans des choses qui sont acquises a priori, inné, pardon, des choses innées, et que du coup, l'originairement acquis, historiquement, il pourrait évoluer. Bon, ça, au niveau de l'interprétation la plus, disons, classique de Kant, ça semble impossible, parce que le transcendantal, il semble que ce soit quelque chose qui doit être fixé de manière définitive. Hein, la table des catégories et le système de...
Non, mais elles restent fixées, elles sont quand même a priori, mais originairement acquises. Ça veut dire qu'il y a besoin de la sensation pour que le système de comparaison se fasse et pour que la sensation soit, du coup, entre guillemets, prise en main par les catégories. Mais les catégories, elles sont a priori, elles sont fixées. Originairement acquises, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fixées, en fait. Elles sont fixées, les catégories.
Et après, juste une question, c'est est-ce que dans la manière dont le temps et l'espace sont conçus par Kant dans l'esthétique transcendantale, qui est une manière de théoriser le temps et l'espace comme condition a priori de la perception des phénomènes. Est-ce que ça... je veux dire, c'est euclidien, hein, c'est un espace à trois dimensions, gros, qui se ramènerait à l'étendue, quoi, et à son abstraction mathématique, selon le principe de la géométrie euclidienne avec tous ses axiomes, y compris celui que le tout est plus grand que la partie. Hein. Je crois bien que ça fait partie des axiomes d'Euclide. Et ça, c'est une chose que Einstein a eu besoin de remettre en cause en allant chercher une autre géométrie, hein, pour considérer que non, si on veut être relativiste, ce qui permet de dépasser bien des impasses de la science newtonienne, il ne faut pas considérer que forcément il y a ce rapport entre la partie et le tout.
C'est intéressant, mais il ne faut pas tout mélanger. il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire le rapport entre la partie et le tout qui a été mentionné ici par Platon, c'était simplement dire que dans un composé d'éléments, le composé est plus que simplement l'addition des parties, la somme des parties. Donc ça ferait plutôt allusion à quelque chose comme ce qu'on appelle maintenant des propriétés émergentes, des choses comme ça. Mais c'est pas au sens mathématique et c'est pas au sens qu'il est. Voilà. C'est au sens où le tout apporte justement sa propre forme à la composition. Hein, où on peut même dire la composition elle-même est quelque chose qui s'ajoute aux éléments. Il faut en tenir compte comme composition. Donc c'est très différent comme problématique. Mais c'est vrai que sur la question du tout et des parties, il y a beaucoup à dire, parce que c'est vraiment très intéressant comme rapport. Après, l'espace kantien, l'espace qui est transcendantal, c'est pas l'espace abstrait, puisque l'abstrait vient toujours après coup, c'est justement abstrait à partir de ce qui est perçu. Donc là, c'est vraiment la possibilité de ranger les objets les uns par rapport aux autres dans la position. C'est pouvoir leur donner une position relative les uns par rapport aux autres. Donc ça n'a rien de très régulier, de très... C'est vraiment... Ça précède complètement la possibilité de créer un espace mathématique quelconque, euclidien ou autre. Voilà. C'est bien antérieur à la possibilité de créer un espace, et c'est une condition de possibilité de créer un espace mathématique, euclidien ou autre.
Dans ce que tu expliquais, ça me semblait très clair au niveau de l'exemple que tu avais choisi sur la lecture, avec les lettres justement qui ne sont pas additionnables, et qui, mis bout à bout, vont représenter un sens, un mot. C'est un peu difficile de parler tout ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on observe très très bien dans la petite enfance, et ce qu'on appelle toutes les prérogatives justement à la lecture, qu'on va pouvoir observer au travers de tous les ateliers qu'on va mettre en place avec les enfants, où on va voir que justement ils expérimentent et qu'ils vont passer à la fois par le sensitif qui va du coup avoir un écho avec tout ce qu'ils ont enregistré, parce qu'en fait le jeune enfant de sa naissance jusqu'à 6 mois à peu près, enregistre systématiquement des séquences d'images, de tout ce qu'il va pouvoir observer. Et petit à petit, il va expérimenter et il y a tout ce qui va passer par l'oralité qui va donner une définition de ce qu'il a vu dans un premier temps qui n'a pas été confronté justement au sensible de tous ses sens, qui vont réussir à donner vraiment une définition. Et le jeune enfant est aussi dans ce que Kant explique au niveau de cette temporalité et de ce classement des objets, l'enfant passe son temps à chercher des repères spatio-temporels pour justement pouvoir après faire les liens entre tout ce qu'il a perçu et une certaine réalité.
Oui, c'est intéressant, mais attention, les repères spatio-temporels, justement, ils viennent après. C'est-à-dire, c'est ce qu'on lui indique, c'est ce qui vient par l'apprentissage, c'est-à-dire le fait de distinguer le loin, le près, l'avant, l'après, enfin, des choses comme ça, des positions précises qui sont justement définies par l'adulte et dont il a besoin. Mais la temporalité et la spatialité qui sont transcendantales, ce sont celles qui simplement permettent de saisir des objets en relation les uns avec les autres, en relation positionnelle ou en relation temporelle les uns avec les autres, mais d'une manière complètement indéfinie. Peu importe laquelle, peu importe quelle relation temporelle, peu importe quelle relation spatiale, mais juste dire qu'il y a une coexistence des objets. Il y a une simultanéité des objets dans l'espace, une coexistence qui est dans un certain ordre. Ils sont rangés d'une certaine manière. Donc, peu importe la manière et peu importe comment on va nommer les différentes manières de ranger les objets l'un par rapport à l'autre, ça vient après, les nommer d'une certaine manière. Mais ce qui est la condition même de la saisie des objets, c'est la notion de position, c'est le fait qu'il doit y avoir des positions relatives des uns par rapport aux autres. Et même chose avec le temps, quoi, des positions de succession. Et après, évidemment, là, s'il n'y avait pas cette possibilité innée, s'il n'y avait pas cette possibilité complètement innée, là, pour le coup, on ne pourrait pas définir des positions, puisqu'il n'y aurait pas la possibilité de saisir ce que c'est qu'une position relative d'un objet par rapport à un autre.
Par rapport à justement ce qui est originaire, enfin, c'était des pistes qu'il faudrait développer, mais à l'époque de Kant, il ne pouvait pas avoir une vision évolutive par rapport à ce que tu as dit. Et justement, je crois qu'il y a deux niveaux. Quoi. Il y a le niveau ontologique, c'est-à-dire ce qui est originaire ou inné. Ben, ça dépend du développement du système nerveux pendant les 9 mois là, qui précèdent pour l'humain. Et donc, je ne sais pas si quand il dit originaire, enfin, ça sort de quelque part et avant d'en sortir, ça n'y était pas. Et puis, il y a l'autre niveau qui est le niveau phylogénique, c'est-à-dire qu'il est évident qu'une bactérie, elle a une perception. Elle peut s'orienter en fonction de signaux chimiques, en fonction de température et d'autres choses. Par contre, de la dire qu'elle a des catégories de l'entendement, évidemment, ce serait très très difficile de savoir comment on pourrait les catégoriser. Par contre, un chimpanzé, j'imagine qu'il doit avoir des catégories de comparaison des choses. Et donc, on peut disposer, si on a une vision évolutive, on peut essayer de trouver des systèmes où on essaierait de catégoriser la façon dont les choses sont perçues. Alors, c'est beaucoup plus difficile de savoir comment elles sont catégorisées, mais en tout cas, qu'on puisse ou qu'on ne puisse pas concevoir des expériences pour demander à une bactérie quel est son entendement. Néanmoins, dès le moment où on a une vision évolutive, on voit bien que ces choses ont dû apparaître à un certain moment durant l'évolution. Aujourd'hui, on est conscient d'avoir la capacité de comparer, de faire la différence, de percevoir une position et toutes ces catégories fondamentales. Nous, en tant qu'êtres humains, on est conscient. On peut justement catégoriser ces catégories, mais on peut aussi imaginer assez facilement que dans toute la diversité du vivant, il y a des organismes auxquels il manque certaines de ces catégories. Donc, peut-être qu'une vision évolutive, effectivement, permettrait de comprendre en termes plus actuels d'où sortent ces catégories, littéralement d'où elles sortent, d'où elles ont émergé.
Mais les catégories n'empêchent pas l'évolution.
C'est bien ça que je veux dire. C'est qu'elles ont dû évoluer. Elles ont dû. Elles n'étaient pas là peut-être chez les bactéries. Pourtant les bactéries.
Oui, non, mais est-ce que chez l'être humain les catégories pour quand
ah, je ne pense pas. Je pense. Oui, pour quand bien sûr. Mais je pense que si on veut comprendre toutes ces catégories-là comme des nécessités de la compréhension, le fait de poser la même question. Bien sûr que Kant la pose pour l'être humain, mais on peut poser la même question à différents niveaux de l'évolution de l'évidence. Je pense que certaines des catégories doivent exister aussi chez d'autres organismes, et d'autres n'existent pas chez d'autres organismes. Et ça, ça nous permet peut-être de pousser plus loin l'investigation. Moi, je n'ai pas les réponses, mais je pense que ça pourrait être une méthode de mieux comprendre ce que sont ces catégories.
Mais en tout cas, quand je disais originairement acquis, c'est le terme qui distingue, enfin c'est différent de inné, c'est différent de acquis.
Oui.
C'est pas originaire, c'est pas originaire au sens d'inné. Originairement acquis, c'est en fait que les catégories existent, mais en gros elles existent en puissance et elles ont besoin de la sensation.
Ah, on a quand même finalement recours à Aristote, hein, j'en étais sûre. C'est quand même lui qui explique le plus clairement les choses. Mais il y a encore une question là.
Non, moi je voulais juste dire, il y a quelque chose qui est un peu gênant dans les échanges, dans les dialogues, c'est qu'on ramène Kant et peut-être un petit peu Platon à une psychologie empirique. Hein, le transcendantal, où lorsque Kant fait sa théorie, il ne fait pas une psychologie. Si Kant faisait une psychologie, ben ça serait pas intéressant, parce que moi, il voudrait me lire au cagé. Hein. Et si Platon aussi faisait une psychologie ou une épistémologie, ben ça serait plus intéressant. Il faudrait dire les épistémologues du XXe siècle. Donc, je crois qu'il y a. Le danger a été pointé. Le seul danger, c'est de confondre les deux niveaux. Bon, il peut y avoir n'importe quoi chez Piaget, ça n'empêche pas sur l'espace ou sur le temps. Donc, bon, Piaget, nous en s'est passé aussi. Mais ça n'empêche pas que, sur l'acquisition de ces notions-là, ça n'empêche pas que les réflexions de Kant dans leur domaine sont totalement valables. Hein? Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant de rentrer dans ce genre de considération, mais je pense qu'on passe à côté de l'intérêt des textes. Ou du moins, on passe à côté de la philosophie. J'ai peut-être une conception restrictive de la philosophie, mais certainement. Mais voilà. Sinon, on va faire de Platon un pré-aristotélicien, d'Aristote un pré je sais pas trop quoi, et de, voilà, donc des pré-scientifiques en gros.
Je sais pas, j'ai pas.
Inné, moi aussi, inné, j'aurais pas. Inné, c'est un terme qui est trop psychologique, j'aurais pas identifié l'inné à la priori, peut-être que je me trompe.
Oui, il y a une transposition là. Puisque, effectivement, on peut dire qu'est-ce qui est du domaine de, on peut dire de la structure ontologique d'une certaine espèce. Transcendantal, il est, effectivement, il fait partie de l'être d'une certaine espèce. Mais il faut bien qu'à un moment, ça se traduise dans les individus. Et donc, quel est le passage? Comment ça se traduit dans les individus? Ça se traduit par une structure matérielle, enfin, qui repose sur la matière, en tout cas, et qui est inné. Donc, effectivement, on change de niveau en le faisant. Et c'est vrai que c'est important de mentionner si on se trouve dans le sujet en tant qu'individu ou dans le sujet en tant qu'espèce. Ça, ok. Mais ça n'empêche que tout ce qui est du domaine de l'espèce est apparu aussi. Donc...
Oui, mais c'est pas le sujet, c'est pas le problème qu'on se pose. Parce que quand il écrit la critique de la raison, c'est pas ce problème qui se pose.
Non, lui, c'est pas son problème. Mais c'est vrai qu'on peut. En fait, c'est vrai que les philosophes se sont toujours demandé qu'est-ce qui était spécifiquement humain dans toutes les capacités sensorielles ou de compréhension qu'ils essayaient de définir. Et si on, c'est vrai que. Un des moyens de mieux le cerner, c'est de tenir compte de la théorie de l'évolution et de voir à partir de quel moment apparaît telle capacité, telle capacité, telle capacité. Mais on l'avait fait bien avant la théorie de l'évolution, puisque à tout moment, on se demandait où est-ce qu'on a une particularité de l'âme humaine et qui n'est pas dans les autres. Platon le fait aussi, quoi. Il y a un endroit, bon, évidemment, j'ai beaucoup résumé, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites, mais lui aussi, il y a un endroit dans le Théétète où il dit faire intervenir ces notions-là, justement, quand il parle des notions de semblable, dissemblable, ça, faire intervenir ces notions-là, c'est propre à l'âme humaine. Donc ça veut bien dire que il a en vue une utilisation consciente de ces notions et non pas justement quelque chose qui serait lié à toute sensation de manière spontanée, parce qu'alors il ne pourrait pas le réserver à l'âme humaine. Donc c'est vrai que chaque fois ça aide de savoir à qui on l'attribue, à qui on l'attribue pas. Mais j'ai pas l'impression qu'on a confondu les niveaux. Il me semble que ça se complète quand même. Je veux dire, on peut comprendre mieux le transcendantal grâce à des études même biologiques et réciproquement.
Est-ce qu'il y a un texte où est abordée la question pour l'acquisition de la connaissance, la question du doute
Du doute chez Platon?
Oui.
Non. Ceci.
Par exemple, je pensais à quelque chose en entendant. Tout le monde perçoit, enfin tout le monde, allons-y pour le 20e siècle en France, j'enseigne, au 21e, tout le monde perçoit que le ciel est bleu. Et puis on lit ça et là, enfin on peut lire ça et là, puis en fait le bleu du ciel n'existe pas. C'est qu'à un moment donné, cette certitude qu'on a tous que le ciel est bleu, c'est pas forcément une vérité scientifique.
Mais c'est vrai, c'est-à-dire toute sensation est vraie, le ciel, on le sent bleu, on le voit bleu, et donc cette sensation est vraie. Maintenant, quant à dire, est-ce que en soi, le ciel est bleu, ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, on sait qu'en soi, il n'a pas de couleur. Enfin, donc, voilà. On peut expliquer effectivement pourquoi il nous apparaît bleu, mais la sensation n'est pas fausse pour autant. La sensation est vraie. Tu vois, c'est ça en fait. La sensation est vraie, même si on peut expliquer que la raison pour laquelle il est bleu est tout autre que la couleur, n'a rien à voir avec la couleur. Ou si on veut, elle est transformée en couleur par nous. Mais il n'empêche que la sensation est vraie. Et c'est vrai qu'il est bleu pour nous. Enfin.
Oui, la couleur des corps est liée à la composition de longueur d'onde,
oui,
des lumières qui frappent ce corps.
Bien sûr.
La couleur des corps, elle est liée à ce qui est diffusé, c'est ce que l'on dit. C'est les radiations diffusées par ce corps qui donnent cette couleur. Si l'on change, si vous avez une expérience très simple, prenez un paquet de cigarettes, enfin les anciens paquets de cigarettes, qui avaient une certaine couleur. Et vous passez dans un tunnel où il y a des tas de longueurs d'onde qui ont été filtrées, puisque c'est à base de sodium, je crois, ben vous voyez que votre paquet de cigarettes, la couleur change complètement à l'intérieur de votre voiture.
Oui, bien sûr, mais ça n'a vraiment rien à, enfin, ça n'a vraiment rien à voir avec l'idée qu'on n'atteint pas l'être de la chose.
Si on s'est posé la question de l'existence du bleu, c'est qu'on a mis en doute cette certitude ou cette perception.
Non, parce qu'elle reste vraie. On n'a pas besoin d'en douter. Elle ne supprime pas. Le fait de dire il y a des longueurs d'onde, ça ne supprime pas la sensation de bleu. Elle est toujours aussi vraie avant qu'après. Simplement, on a l'explication de pourquoi elle nous apparaît bleue. Mais c'est tout aussi vrai.
L'évolution, ce n'est pas une évolution continue. Sinon,
On s'est toujours posé la question de pourquoi. Hein, pourquoi les choses sont comme ça. Et puis, progressivement, on arrive à y répondre. Mais ouais, ça ne met pas en question le fait qu'on les sent comme ça. C'est toujours vrai. Convaincue.
Je reste persuadée que ça s'oppose.
Enfin, suite du débat après les vacances.